L'abonnement spirituel est de 5000 francs par mois.
Alors moi, avant, j'étais un vrai voyou. Je volais.
Et vous ne volez plus ?
Mais si, bien sûr. Mais je donne tout au Tipeee.
La seule richesse spirituelle est dans nos publications.
Vous n'avez pas peur des charlatans ?
Ça arrive.
Bien sûr, ça existe.
Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule pour une saison incroyable, saison 10
ouais.
Avec aujourd'hui Dorian Chandelier. Dorian, ça va la pêche, la patate?
Bonjour, ça va la pêche, ça la patate. Moi, je fais rien en ce moment, du coup, ça va.
Oh, je peux quand même dire que tu étais un ancien chroniqueur de jeuxvideo.com, que ton domaine d'expertise, c'est le jeu vidéo.
Si tu tiens à me présenter,
voilà,
oui.
C'est ça, je tiens à te présenter. Parce qu'on m'a dit que je ne présentais pas suffisamment mes invités. Nous sommes également avec Jérémy Klein. Jérémy, ça va la pêche?
Le paprika.
Le paprika, nous rappelons que Jérémy donc est ludothécaire dans la région, à Plouer, dans le 22.
Oui.
Nous sommes également avec Jérôme S de Poitiers.
Ouais, on a 10 ans, on est grand maintenant.
Jesse Tra sur les forums. Oui. Voilà, tu es le maître du shitstorm, j'ai envie de dire. Très présent sur les réseaux sociaux.
Je fais ce que je peux.
Tu es également un serial raliste. C'est. Chut, ah d'accord, bon, faut rien dire. À ce sujet, apparemment, c'est tabou. Nous sommes avec Valentin. Valentin, ça va la pêche?
Ça va la pêche.
Valentin, ouais. Mais c'est mon partenaire de Magic. C'est un gros joueur de Magic, un Delver, espèce d'enfoiré.
Exactement.
J'espère que d'ici la diffusion de ce podcast, cette carte aura été interdite par la DCI.
Mais jamais.
Tu es aussi un petit noob en milieu de jeu de rôle. T'as fait combien de parties là? C'est ta combienième partie tu vas faire?
Alors, moins de 10, ça c'est sûr. Je pourrais pas te dire un chiffre exact. Mais
je crois que c'est ta quatrième.
Quatrième, cinquième.
Moi, je les compte. Moi, je les compte. Nous sommes également avec Vincent L. Vincent,
ouais,
le chef ancien. Non, nous, tu rédiges encore des articles sur Sci-Fi Universe.
Toujours, ouais.
Et par contre, tu as changé de profession. C'est quoi maintenant ton métier, Vincent?
Eh bien, maintenant, j'essaie de vivre du jeu de rôle. Voilà.
Il y a des dingues sur Terre.
Donc, je suis inscrit à Pôle emploi.
Alors donc, sur quel projet tu travailles pour essayer de vivre du jeu de rôle?
Eh bien, en ce moment, je travaille donc sur Septième Mer, sur la version française de Septième Mer, qui est éditée par Studio Agathe, et donc je m'occupe de la coordination de la version française.
D'accord, et donc c'est ça aujourd'hui que tu es venu nous présenter,
voilà,
la Septième Mer.
Je suis venu devant de ma camelote.
Alors Septième Mer, c'est un vieux jeu, me semble-t-il.
C'est un vieux jeu, ouais, qui est sorti en 99. Voilà, donc il est toujours écrit par John Wick, qui s'était fait connaître avant pour avoir écrit La Légende des Cinq Anneaux.
D'accord.
Un jeu que, voilà, qui est, je pense, un peu plus populaire, en tout cas à l'époque. Quoi. Le jeu a fonctionné en France pendant 4-5 ans, mais vraiment bien fonctionné, parce que je recomptais les suppléments, il y en a eu plus d'une quinzaine de sorties en 3 ou 4 ans. Donc, tu vois, à l'époque, au début des années 2000, c'était...
C'était beaucoup, ouais.
C'était beaucoup, quoi. Ouais. C'était, et puis voilà, après, le jeu voilà, est un peu tombé dans l'oubli. Il y a quelques années, 2 ans, je crois, maintenant, il a lancé un Kickstarter pour la nouvelle édition qui a tout pété. Il a fait 1 300 000 $ pour sortir son jeu.
Ouais,
donc là, tu vois, je viens de présenter du mainstream de chez mainstream. En fait, tu vois, c'est vraiment.
Mais j'aime bien commencer les saisons avec du mainstream. Jérôme, t'as une question.
Ouais, t'as dit l'éditeur, c'est.
Alors l'éditeur de la deuxième édition, c'est Agathe. John Wick présente.
D'accord.
Ah,
d'accord.
Pour la version américaine, en fait, c'est-à-dire il a créé sa propre boîte.
D'accord.
Hein, du coup.
Et pour la VF?
Et pour la VF, c'est Agathe, donc qui fait notamment les Ombres d'Esteren.
D'accord. Agathe, les mêmes de Héros et Dragons, là, enfin,
alors, Héros et Dragons, c'est Black Book Edition.
C'est concurrent. Attention, voilà, attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis.
Alors, il y a Donjons et Dragons, c'est Gale Force 9. Héros et Dragons, c'est Black Book Edition. Et Dragons, c'est Agathe.
D'accord, ok. C'est bien et bien cela. D'accord.
Voilà, c'est ça.
Ok.
C'est Nelian et compagnie.
C'est ça.
Qu'on a déjà eu l'occasion d'avoir plusieurs fois, me semble-t-il, la cellule. On a déjà enregistré quelques émissions avec eux. Dorian, tu disais aussi que tu avais une expérience avec ce jeu. C'est pas ton premier jeu de rôle ou quelque chose comme ça ?
Non, c'est pas mon premier jeu de rôle, mais c'est un jeu. J'ai fait 4-5 scénarios d'une campagne au club de jeux de rôle de mon lycée, donc il y a 15 ans de ça.
4-5 scénarios, donc,
oui.
Après, ouais. Donc c'est du solide, quoi. T'as un expert.
Ah, c'était un club de jeux de rôle, quoi. Tu vas pas juste un soir pour faire un jeu comme ça, mais.
Et alors, quel est ton souvenir de ce jeu, Dorian, si tu devais... Aucun, tu sais.
Ça fait pas partie des jeux de rôle qui
t'ont
marqué. Ça fait, ouais. Ça fait partie des jeux de rôle auxquels je jouais quand j'allais avec des gens et qu'on jouait à un jeu random, etc. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure hors micro, qu'il faut redire, c'est que moi, pendant longtemps, les jeux tradis, c'était interchangeable, c'était le lore qui changeait, quoi. C'était le maître du jeu connaissait les règles, on me disait je jette les dés.
Pour beaucoup, c'est encore comme ça,
ouais.
Je te rassure. Hein. Moi, la première fois que j'en ai entendu parler, c'est parce qu'on jouait à L5R. Et qu'en fait, quand on regarde la carte de L5R, il y a une zone qui est entourée par une barrière de feu, en fait, une barrière de flamme. Et il y a un joueur à ce moment-là qui m'a dit, ça c'est marrant, la barrière de flamme a exactement la forme d'un autre jeu auquel je participe en ce moment qui s'appelle les Septièmes Mers. Et il nous a dit, il émettait l'hypothèse qu'en fait derrière la barrière de feu dans L5R, ce soit en fait l'univers de Septièmes Mers qui soit présent. Et donc, alors... Pour toi, c'est une théorie solide.
Ouais, c'est une théorie. Je pense que, bah, mon avis, c'était que c'était le projet à la base.
D'accord.
Mais en fait, bon, dans les faits, ça s'est pas fait comme ça, en fait. Mais c'est vrai que quand tu regardes bien la carte de la première édition de Septièmes Mers, il y a une partie qui ressemble quand même pas mal à Rokugan. Mmh. C'est le même auteur, donc je pense qu'il y avait vraiment cette idée-là. Bon, dans les faits, c'est pas le cas, quoi. C'est pas du tout le même univers, mais. Bon.
Et moi, je me souviens qu'à l'époque, ça m'avait fait rêver parce que c'était déjà une espèce de cross-univers, tu vois. De oh, il y a deux jeux, et puis en fait, ils sont peut-être dans le même monde et on le sait pas.
Et il y avait la légende des terres brûlées aussi, Legend of the Burning Sand, qui. Peut-être aussi, je pense, au départ, devait être accordé. Et puis finalement, il y a eu Septièmes Mers, et puis il y a eu KT pour faire tout ce qui est asiatique, et puis l'Empire du 300 pour faire ce qui est Moyen-Oriental. Mais je pense qu'il y a eu une histoire d'éditeur derrière.
Ils ont peut-être vu ce que ça donnait chez White Wolf et ils ont eu peur.
C'est possible.
Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter Septièmes Mers ? Du coup, apparemment, autour de cette table, personne n'est vraiment instruit du jeu, ça va être intéressant.
Ok. Alors, pour vous présenter Septièmes Mers, plutôt que de vous présenter l'univers de jeu, faut savoir que c'est un jeu qui s'articule autour d'un genre en particulier, qui est le genre de cap et d'épée. Et donc, tout dans le jeu, de l'univers jusqu'au système, est fait pour faire du cap et épée, en fait. Version film hollywoodien, d'accord? Donc, si on remet un peu ce que c'est que le cap et épée, on va dire que ça commencé avec les Trois Mousquetaires, Alexandre Dumas, il y a eu pas mal de choses en littérature, puis ça a vraiment explosé au cinéma dans la première moitié du XXe siècle, et notamment à Hollywood, quoi. C'est un peu tombé en désuétude hein, ces derniers temps, à part la saga Pirates des Caraïbes, il n'y a pas grand-chose en cap et épée qui sort, mais en tout cas, c'est un genre qui a vraiment connu son heure de gloire à un moment donné, quoi. Pour définir un peu ce qu'est le cap et épée, on pourrait voir ça comme presque une première forme de récit de super-héros, en fait. C'est-à-dire que dans les films de cap et épée, on joue des héros très positifs qui se défendent, enfin, qui se battent contre le crime, l'injustice, tout ça, qui sont plus forts, plus beaux, plus intelligents que le reste de la population.
Et honorables. Il y a un côté honorable.
Voilà. Ouais. Qui peuvent avoir un costume et un surnom, tu vois, comme Robin des Bois ou comme Zorro, par exemple. Donc voilà. Donc c'est des jeux. Voilà, dans lequel c'est un genre à la base dans lequel les héros sont des personnages très positifs, capables de prouesses physiques énormes. C'est-à-dire quand on regarde un film de cap et d'épée, par exemple, on cherche pas une cohérence physique. En fait, c'est pas grave si on ne croit pas à ce qui se passe à l'écran, tant que ça a de la gueule et que ça pète. Finalement, ça fait le job, tu vois. C'est à la fin de Pirates des Caraïbes, quand t'as Jack Sparrow qui se bat contre Davy Jones en haut du mât du Black Pearl, tu te dis pas, bah non, c'est pas possible, là il pleut, il devrait glisser et puis tomber. Quoi.
Non, voilà. Bien sûr. Ouais.
Du coup, c'était pour dire, pour faire du cap et épée, il faut pas juste avoir une cape et une épée. D'accord. Il y a un certain nombre de codes, et notamment aussi le fait de jouer avec l'histoire, c'est-à-dire que en général, dans les récits de cap et épée, on prend ce qui nous intéresse dans l'histoire et puis on le déforme. Tu vois, c'est l'image populaire qu'a le cardinal de Richelieu, par exemple. Alors, le cardinal de Richelieu, historiquement, c'était pas un enfant de cœur, c'était pas non plus, je pense, cette espèce de créature démoniaque, tu vois, qui était prêt à tout pour s'enrichir, couler le royaume de France. Tu vois, se vautrer dans le stupre et la luxure tout le temps. Mais finalement, c'est un peu l'image qu'en a tout le monde, parce que c'est ce qui est véhiculé par les Trois Mousquetaires. Mais c'est pas grave, c'est plutôt cool. Et puis, bah voilà. Donc ça, c'est pour définir ce qui est, voilà, grosso modo, le genre cap et épée. Et Septièmes Mers propose de faire du cap et épée, c'est-à-dire d'incarner un personnage, un de ces personnages dans un récit plein de rythme, de péripéties, de panache, ce genre de choses. Quoi.
Alors, avec quel système ? Avec quel système de jeu ? Avec quel système de résolution ?
Ouais. Alors, avec quel système ? Alors, il y a grosso modo trois grandes idées au cœur de cette deuxième édition. Alors, je vais surtout parler de la deuxième édition pour vous permettre de faire du cap et épée. Trois grandes idées. Le premier, donc, au niveau du système de résolution, c'est que vous allez interpréter des personnages qui ne peuvent pas mourir, en fait. C'est-à-dire que, quoi que vous fassiez, vous n'allez pas pouvoir mourir. Vous allez avoir une jauge de points de vie, un peu comme dans beaucoup de jeux traditionnels, mais quand vous serez au bout de cette jauge de points de vie, vous serez sans défense. Si les cartes du cardinal sont venues vous arrêter, si vous êtes sans défense, ils vous arrêtent. Mais vous ne mourrez pas. Et un peu comme dans tout bon film de cap et d'épée hollywoodien, vous allez voir que plus vous allez être blessé et plus vous allez être fort, en fait. un peu l'effet Bruce Willis à la Die Hard, en fait. C'est, voilà, vous voyez que dans Die Hard, plus Bruce Willis a encaissé de trucs et plus il est balèze. En fait. Bah, c'est ce qui va vous arriver à 7ème mer, plus vous êtes blessé, plus vous êtes fort.
Excellent, ça.
Okay. La deuxième grande idée, c'est que vous ne pouvez pas rater vos actions. C'est-à-dire que vous êtes des héros, à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose, vous allez automatiquement le réussir. C'est comme ça. Dans les films de KPDP, tu te demandes pas si le héros va réussir ou pas, tu sais qu'il va réussir, et ça, c'est ce qui va vous arriver aussi, en fait. Donc, on reste dans un jeu traditionnel, vous avez des caractéristiques, des compétences, mais ce qui va faire la différence, on va dire, c'est le temps qu'il va vous falloir pour faire cette action. Si vous décidez d'escalader une cathédrale et que vous n'êtes pas un personnage physique et que vous n'avez pas d'escalade, ça vous prendra peut-être 3 jours, mais vous le ferez. Et vous
d'accord.
Si du coup vous êtes un personnage plus physique qui est capable d'escalader tout et n'importe quoi, vous pouvez faire du Assassin's Creed si ça vous plaît. L'idée, c'est que pareil, ça a de la gueule et c'est un peu de panache. Donc là, du coup, vous avez peut-être pensé que si on réussit tout, si on peut jamais mourir, il n'y a pas forcément de difficulté. C'est pas tout à fait vrai. La difficulté dans 7ème mer, elle se déplace. C'est-à-dire que les méchants, les scélérats, les grands méchants de cet univers, ont exactement les mêmes règles que vous. Ils ne peuvent pas mourir et ils n'échoueront pas leurs actions, en fait. Donc l'idée n'est pas de savoir si vous allez réussir ou pas vos actions, c'est plus de vous demander si vous avez pris la bonne décision, en fait.
D'accord.
Donc voilà un exemple, par exemple, si vous, une bataille navale entre deux navires, vous décidez de virer à bâbord et d'envoyer une bordée de boulets de canon, il n'y a pas de jet à faire pour savoir si vous allez réussir à virer à bâbord, pas de jet à faire pour savoir si vous allez réussir à toucher l'autre navire. Donc, vous allez virer à bâbord, vous allez envoyer vos boulets de canon, mais vous allez peut-être vous échouer sur un récif, puisque si vous aviez pris le temps de consulter une carte, vous seriez aperçu que le scélérat faisait cette manœuvre justement pour vous amener dans ce piège, et après vous allez avoir un bateau qui va commencer à prendre l'eau et qui va être bloqué sur place. Enfin voilà, ça fait partie des exemples.
D'accord, ok.
C'est la difficulté du jeu, elle se trouve là, c'est il faut prendre la bonne décision.
Donc on réussit les actions, mais les conséquences peuvent être fâcheuses. Etc.
Voilà, si tu as pris la mauvaise décision, tu vas réussir ta mauvaise décision, quoi. Tu vois, un peu.
Oui, d'accord, ok.
Voilà.
Très bien.
Avec ce petit bémol, vous pouvez échouer des actions si vous décidez de les échouer. Ouais, parce que ça peut apporter quelque chose à la dramaturgie de la partie ou un petit effet rigolo.
Ça se passe comment en termes de jeu, ça? C'est le joueur qui annonce.
C'est le joueur
jeu
qui annonce, qui va essayer ça et qui va se planter, en fait. De la même manière, vous pouvez mourir si vous décidez que votre personnage va mourir, en fait. Donc, en termes de jeu, va apporter quelque chose. C'est un personnage qui se sacrifie, donc du coup, les autres vont devenir aussi plus forts pour résoudre ce genre de conflit.
Ça a l'air vraiment pas mal, ça a l'air vraiment intelligent.
Là, on a intérêt à échouer en plus, parce que si j'ai bien compris, plus on morfle, plus on est fort. Donc on peut avoir intérêt à volontairement morfler à certains moments pour décupler ensuite ses talents.
C'est ça.
C'était déjà le cas dans la première édition, parce que là, tous les systèmes que tu décris, ça me parle pas du tout par rapport aux vagues souvenirs que j'en ai.
Alors dans la première édition, non, le seul point, tu pouvais pas mourir dans la première édition, c'est le seul point commun en fait qu'il y avait.
c'est fait.
Avant, enfin c'était un système où tu avais une difficulté, tu jetais des dés, enfin voilà, tu voyais si tu pouvais la dépasser ou pas. Mais voilà, il a complètement revu son système, quoi.
Et donc tu l'as pas dit, mais évidemment il y a un meneur de jeu.
Il y a un meneur de jeu, il y a des joueurs.
Système, on est sur du traditionnel.
On est sur du traditionnel. Ouais.
Très bien. Alors, Jérôme, une question.
En parlant de ça, ouais, du coup on va jouer donc du KPDP. Je vois le manuel, là, je vois son épaisseur. On est bien dans du tradit. Du coup j'imagine qu'on va jouer ça dans un univers.
C'est ça.
Tu peux nous en toucher deux mots.
Alors l'univers de 7ème mer, alors c'est pareil, c'est un univers pour faire du KPDP en fait. Donc du coup c'est un univers qui joue avec l'histoire, mais alors qui a pris le parti de créer un monde imaginaire, d'accord. Très inspiré de l'Europe Renaissance Moyen Âge, en fait.
D'accord.
C'est, alors, ils ont été piochés dans l'histoire de l'Europe, ce qui les intéressait, ils ont mis de côté ce qui ne les intéressait pas. Et du coup, c'est vrai que comme meneur de jeu, pour jouer avec l'histoire, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est-à-dire que si tu joues à un jeu historique et que tes joueurs décident d'assassiner Louis XIV, ça peut être un peu compliqué, en fait, parce qu'après, il faut que tu réinventes un peu l'histoire. Si tes joueurs, en 7ème mer, décident de tuer Léon Alexandre XIV de Montaigne, qui est l'équivalent de Louis XIV, ouais. Et bah, du coup, bon, c'est un challenge, quoi. C'est un des grands, d'un personnage emblématique de cet univers, mais c'est possible, et du coup, t'es beaucoup plus lié à ça. Donc, c'est un univers.
Le faire, quoi, ouais. Sans conséquences.
Ah, bah, après, il faut que tu. Voilà, tu.
Fais gaffe à sa tête, quand même, je pense.
Oui, c'est.
Non, mais ce que je veux dire, sans conséquences sur. Il n'y a pas une énorme puissance de calcul du MJ nécessaire pour réadapter l'histoire à la vérité, tu vois ce que
non, bah, le livre de base te présente l'univers à un instant T. Après, voilà, les joueurs vont évoluer dedans. Si tu es un des souverains de cet univers, bon, bah, du coup, c'est toi qui invente la suite.
C'est
quoi.
Une campagne, ce que tu as là entre les mains
Non, c'est juste le livre de base.
Ouais. Et le scénario, la partie que tu vas nous faire faire ce soir, c'est déjà, est-ce que c'est un scénario? Oui, je
oui c'est un scénario. C'est le scénario du kit d'introduction.
D'accord, okay, très bien. Okay. Voilà. Entendu. Donc, c'est celui que, si on va en convention, jouer à 7ème mer, a priori...
Ça pourra peut-être être celui-là, ouais.
D'accord.
Tout dépend de ce que décide de faire le meneur de jeu.
D'accord, ok. Mais ça veut dire aussi qu'il faudrait peut-être, dans le débrief, qu'on fasse attention à ne pas trop spoiler. Voilà, ouais. C'est ça.
Est-ce que ça spoil déjà, si je pose la question, de savoir c'est quoi le temps de création de personnage?
Alors là, on va jouer avec des prêts tirés pour ce scénario. Après,
formidable. Je pense que Dorian, ça t'arrange.
Alors, oui, moi, c'est ça, souvent. Plus il y a de temps à créer des personnages, plus ça m'emmerde.
Les personnages ne sont pas très longs à créer. Alors, ce qui est long, c'est que tu as une liste d'avantages. Voilà, il faut que tu choisisses des avantages pour ton personnage. Tu n'as pas de défaut. Puisque t'es un héros.
J'adore.
Mais okay. Voilà. Et alors bon, du coup, voilà, ce qui est long dans la création de personnages, c'est qu'il faut que tu lises tous les avantages pour savoir ce que tu veux. Mais à part ça, créer un personnage en soi, c'est pas super super long. Une fois que tu connais bien tout ce truc-là. Voilà. Donc juste pour revenir comme ça sur l'univers. Donc c'est inspiré de l'Europe de la Renaissance. Il y a 8 nations en fait qui sont donc pareil très calquées sur ce qui existe déjà. C'est un jeu qui fonctionne beaucoup sur le cliché en fait. C'est-à-dire que très rapidement, par exemple, si je te parle de la nation de la Valonne, donc la Valonne, les Royaumes-Unis d'Avalon, c'est l'équivalent des Royaumes-Unis. Voilà. Vous avez la Valonne, la Marche d'Island et l'Inishmore. Vous pouvez imaginer quelle nation.
Bien sûr. Voilà.
Et l'ambiance, c'est par exemple Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde. Donc tu vois, très rapidement, tu vois un peu ce qui se passe dans quelle peut être l'ambiance dans ce pays, quoi. La montagne, c'est le Roi Soleil, tu vois, c'est la France du Roi Soleil, ambiance ridicule avec les courtisans, tout ça. Donc voilà, comme dans tous les films de KPDP, ça joue beaucoup sur les clichés, quoi. Et donc le livre de base, c'est un peu le principe de la première édition, c'était ça aussi, c'est-à-dire que le livre de base donne les gros clichés de l'univers. Ensuite, avec les suppléments qui sortent, tu entres un peu plus dans le détail, tu sors un peu plus de ces clichés pour avoir un monde un peu plus profond, quoi. Mais le livre de base, c'est vraiment du KPEP façon carton-pâte, enfin tu vois, théâtre, limite décor en carton, quoi. Mais c'est un parti pris qui est assumé.
Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on y va direct?
Non, bah écoute, je reprends mes notes, mais non, j'ai pas de...
Eh ben c'est parti, on joue, okay. On y va. Voilà, alors fin de la partie de 7ème mer. Vincent, je me retourne immédiatement vers toi, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que tu trouves que c'est une partie prototypique, typique de ce jeu? Est-ce que ça ressemble à ce que tu as pu faire avec ce scénario d'introduction?
Ouais, tout à fait, ça ressemble à ce que j'ai pu
faire. À 100%.
Voilà, c'est ça. Ouais. Mais le scénario est fait juste pour entraîner ce genre de choses.
On sentait qu'on n'avait pas dévié. Moi, je ne m'attendais pas à ce que tu répondes autre chose. Tu vois, sentais bien qu'on était vraiment dans le cadre.
C'est un scénario qui est fait pour découvrir le système et découvrir un peu l'univers, quoi. Surtout le système, d'ailleurs.
D'accord, ok. Très intéressant. Alors, on va présenter très très rapidement les personnages qu'on a joués. Alors déjà, première surprise directe. Donc, on a des prêts tirés qui sont tirés donc du kit d'initiation, si j'ai bien compris.
Ouais.
Première surprise, c'est-à-dire que tu nous présentes un petit peu les royaumes, les gens importants de ces royaumes. Et première surprise, tu nous dis, vous voyez le prince là dont je vous ai parlé, vous allez le jouer. Ça, j'ai trouvé ça génial, d'entrée de jeu. Et justement, Dorian, c'est toi qui jouais ce prince.
Oui, c'est moi qui jouais le prince.
Alors, c'était
du coup.
Qui? C'est quoi
C'était un prince de type tsariste, et du coup, qui se jouait plus sur l'axe stratégie militaire et diplomatie.
Et tu joues un grand personnage de l'histoire du jeu.
C'est ça, l'un des grands héros de 7ème mer.
Ouais. Et moi, je joue sa femme. On peut peut-être donner les noms des personnages.
Oui, bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais.
Comment tu t'appelais
Alexis.
Voilà, et moi je m'appelais Domenica Vespucci. Les Vespucci qui sont une grande famille apparemment.
Ça
de
fait
la...
partie des familles Vodacci. Voilà,
c'est voilà les Vodacci qui sont des Italiens, enfin, l'équivalent des Italiens. Il va falloir essayer de préciser à chaque fois parce que c'est bien pour avoir les représentations mentales qui vont avec. Et Domenica était avec son frère Ennio, joué par Jérôme.
Ennio Vespucci, ouais, voilà. Une espèce de beau parleur qui aime bien les sbrouf et se battre. Un peu une espèce de Bryn Martell, même si j'ai plus joué bourrin que ça. Mais bon.
Et tu es mon garde du corps. Moi, j'incarne aussi un personnage assez important, parce que je suis la future femme d'Alexis, donc le personnage de Dorian. Et je suis également une... alors, comment on appelle? Tisseuse du destin, moi,
Sorcière de la destinée.
Une sorcière de la destinée, c'est-à-dire ces magiciennes qui utilisent, en fait...
qui voient les fils du destin.
Qui voient les fils du destin, qui peuvent les influencer. Ouais. Ça, je trouve ça extrêmement classe. Vraiment, c'était super agréable de jouer ce personnage. Jérémy,
je jouais Azucena qui était la garde du corps du prince. une fille qui est plutôt capable de bien se débrouiller à l'arme blanche, et donc j'étais là vraiment pour sauver la vie de l'avenir du prince.
Ouais. On verrait que les enjeux étaient importants. Valentin, tu jouais...
Alors, Roberto Gallo, le prêtre capitaine de vaisseau.
Ça, c'était original comme personnage, je crois. Un prêtre capitaine de vaisseau.
Ouais, bah, la religion est très importante dans le jeu, en fait.
D'accord.
Donc, voilà, ça permettait aussi de commencer à introduire cette notion.
D'accord.
Un scénario d'introduction.
Alors, le pitch du scénario, Vincent, est connu. Est-ce qu'on peut le spoiler? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut pas dire? Est-ce qu'on peut pitcher quand même un peu ce qu'on a fait?
Ça
te dérange déjà?
On peut rapidement pitcher ce qu'on a fait.
Je tente, puis tu m'arrêtes si je dis des choses que je ne devrais pas dire. En gros, on joue dans un royaume qui va bientôt devenir une démocratie.
C'est ça.
Car le roi de la Confédération...
C'est la Fédération Sarmatienne.
Voilà, de la Fédération Sarmatienne, a trouvé, grâce à son fils Alexis, une faille dans la Constitution qui permet en fait au roi d'anoblir quiconque, qui il veut, et il va décider d'anoblir la totalité de sa population, faisant ainsi, puisque ce sont les nobles qui dirigent dans cette fédération en règle générale, faisant ainsi de la population tout entière les directeurs, les dirigeants en fait de la nation. Et ce faisant, il va faire une démocratie directe. Donc ça, c'est très intéressant du point de vue du pitch. Problème, bien sûr, les anciens nobles qui occupent aujourd'hui la place du Sénat n'ont absolument pas envie que ce texte de loi soit appliqué. Et donc, ils vont tout faire pour empêcher le prince Alexis et son père, le roi.
Stanislavo ou un truc comme ça.
Stanislavo.
Voilà. De leur faire perdre leur pouvoir, de les faire chuter en anoblissant. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression de ce pitch, tu sais, un peu comme dans les Indestructibles. Lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le sera. Là, c'est lorsque tout le monde sera noble, plus personne ne le sera. Et surtout pas les 13 nobles qui sont au pouvoir à ce moment-là. Donc, ils ont très, très peur de perdre leur pouvoir. Et nous, on joue... au cœur du truc, ça je kiffe quoi. C'est-à-dire enfin un jeu où on ne présente pas un univers de roi, de princesse, etc. Et où tu joues le paysan ou le comptable du fin fond du trou du cul du village, de machin. Là on est vraiment dans l'action quoi.
Et puis c'est mis dans donc le scénario du kit d'initiation de
ce jeu. Ouais.
Donc c'est vraiment indiqué. C'est comme si un Star Wars te filait un scénario d'initiation où tu joues Luke Skywalker direct.
Et c'est ça. C'est formidable. Enfin, ça, j'ai trouvé que c'était un gros point positif dès le début du jeu. Moi, j'étais vraiment impressionné par ça. Je m'attendais
pas. Tu joues à un héros.
Ah oui, pour le coup, vraiment.
Ouais, après, moi, c'est vrai que c'était comme ça qu'on nous avait vendu le jeu aussi. Ah, et le fait d'avoir peut-être déjà fait une partie de la première édition, ça m'avait peut-être préparé aussi à ça. Mais ça n'a pas été un choc esthétique comme ça d'être l'air plus de l'être
Dorian,
pour toi.
On a tellement l'habitude de voir des jeux qui nous présentent des gens fantastiques et qui nous disent vous serez leur larbin. Enfin. Voilà, c'est très très souvent que ça arrive quand même. Vous avez été agréablement surpris par les personnages après dans leur prise en main. Vous avez apprécié jouer ces persos. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Jérémy, par exemple?
Alors moi, j'aime bien mon personnage parce que elle a un archétype un peu voleuse assassin qu'on peut voir dans d'autres jeux. Et je voulais vraiment jouer sur l'aspect plus corporel, donc j'ai fait une muette. Donc c'est très bien pour les scènes d'action, parce que du coup, j'ai pas besoin de parler, j'ai besoin d'agir.
Ah, t'étais muette, putain, j'avais même pas relevé ça.
J'essayais d'être le plus muet possible.
Je viens juste de citer maintenant que tu me parlais juste par geste.
Mais je faisais le maximum
moi
de
aussi.
Gestes. Mais c'est vrai que du coup, il y a la deuxième acte de l'histoire, où là, j'ai parlé, parce que sinon, j'aurais vraiment rien dit pendant tout le deuxième acte.
Mais c'est difficile à roleplayer, quoi.
Et voilà, c'est ça. Donc j'ai un peu abandonné cette idée-là, mais l'idée de départ, c'était vraiment jouer sur l'aspect corporel de ce personnage. Donc c'était assez intéressant parce que le système de jeu dans les phases d'action permet vraiment de mettre ça en avant.
D'accord, ok. Valentin, je t'ai trouvé plus en retrait par rapport à nous tous. C'est-à-dire qu'en fait, on sent qu'il y a des liens entre nos personnages. Moi, je suis le futur époux de Dorian, enfin la future épouse de Dorian, protégé par son garde du corps qui est mon frère. Tu vois, on sent qu'il y a un lien entre nous tous et lui, protecteur donc Jérémy, protecteur de Dorian. Et puis toi,
moi, je le qualifierais par mon manque d'expérience encore dans le jeu de rôle. C'est pas que le personnage m'inspirait pas ou c'est que j'avais pas forcément les idées qui.
Ah oui.
Puisse, j'avais pas de réflexe que je peux avoir avec.
J'aurais bien voulu te voir avec un personnage plus impliqué.
Mais je pense qu'on a tous eu du mal à le situer, et la preuve étant que dans la dernière bagarre, on l'a quasiment presque désigné à être un personnage qui se bat. Et on a découvert, ah mince, c'est pas du tout fait un personnage pour la bagarre.
Complètement.
Et ouais. Du coup, il était sous-équipé pour faire ce qu'on avait décidé qu'il ferait.
Ouais, effectivement. Après, j'ai bien aimé l'utilisation de. Bah, de mes marins, enfin de mes.
Ah oui.
De mes mousses, quoi. Ça, c'était très appréciable.
Après, c'est le truc de Vincent. Roberto, en fait. Bon, c'est un capitaine de vaisseau, en fait, capitaine de bateau. Et donc, dans les décisions que vous avez prises au cours de scénario, vous n'avez pas utilisé le bateau, en fait. Vous n'avez pas voyagé. Je pense que si vous aviez décidé à un moment donné de prendre la mer, il aurait eu une importance beaucoup plus considérable, en fait. C'est lié aussi à vos décisions.
Le pire étant que c'était une blague qu'on a fait avant la partie en disant que le marin, ça avait peut-être inutile. Quand on a appris qu'il y avait des portails de téléportation, on s'est dit, mais pourquoi on utiliserait le bateau à ce moment-là?
C'est clair. Mais en même temps, on s'est quand même servi de ses caractéristiques sociales de commandant.
Et de prêtre. Fait un prêche en faveur du partage des pouvoirs.
Voilà, on s'est servi de son éloquence pour répandre au moins une rumeur, etc. Mais par contre, moi, quand on me parle capitaine de navire, si tu veux, Vincent, j'imagine tout de suite le mec qui sait se battre quand même, parce que pour tenir des hommes, on imagine le bretteur, tu vois. Enfin, je sais pas pourquoi ça...
Ou alors que c'est plus celui qui va...
Alors que c'est un érudit.
C'est un érudit. Et puis, oui, c'est un érudit. Mais... C'est un navigateur, c'est quelqu'un...
Moi, j'ai tout de suite pensé au pirate aussi, comme Romaric.
Ouais. C'est pour ça qu'on l'a signé au combat à la fin.
Ouais. Bah alors, c'est l'idée aussi, c'est que les capitaines de vaisseau ne sont pas tous des hommes d'action. En fait, tu as des stratèges militaires, stratèges navaux.
On a compris ça.
Après sur le manque d'implication, il y a une perche qu'on a peut-être manqué de saisir, maintenant que j'y repense. Il me semble que mon perso Roberto était censé être pote, c'est ça?
Ami d'enfance, ouais.
Ouais. Ami d'enfance. Et ouais, tu l'as dit dans le briefing, et c'est que maintenant que j'y repense, tu vois, maintenant qu'on.
Ça n'a pas du tout joué sur notre partie.
Ouais, et on aurait. Enfin, ouais, on a zappé ça, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que. Voilà.
Déjà, tu vois, ça c'est intéressant. Il y a des liens entre nos personnages. Nos personnages sont déjà une équipe. Alors qu'on se rencontre pour la première fois, la plupart d'entre nous. Puisque moi, je débarque, le début du scénario, c'est moi qui débarque rencontre Dorian, je rencontre mon futur époux pour la première fois. Alors certes, on a communiqué par courrier, mais on se rencontre direct. Et on est pris dans un tourment.
Bah, chaque personnage est lié à un autre, d'ailleurs.
Ouais, exactement. Et ça marche très bien, tu vois. Les communications entre les persos se font bien, ça fait équipe tout de suite. En cela, ça m'a beaucoup fait penser à Lady Blackbird, dans la structure, et même dans la... Même dans la façon dont le scénario se déploie, on est dans des situations immédiates, on ne prend pas 36 000 piges à réfléchir, ça commence direct, les persos sont impliqués, il y a un vrai impact dès le départ. Tu voulais ajouter quelque chose, Jérémy?
Oui, je voulais savoir, Vincent, si Roberto est un personnage. En fait, on était 5 à table, on était 5 joueurs. Est-ce que du coup, c'était le 5e personnage proposé dans...
Oui, c'est les 5 personnages.
Okay. Oui, mais est-ce que c'est le 5e? La question, c'est est-ce que c'est le.
Est-ce qu'on est obligé de jouer à 5 à ce scénario-là?
Non, on peut jouer à.
On pourrait 3, jouer à 4, 4 ouais, et c'est Roberto c'est qui saute?
Non, en général, je laisse toujours le choix. J'ai fait des parties où personne ne voulait jouer le prince Alexis parce que souvent ça impressionne de jouer le prince Alexis. Il y a beaucoup de joueurs qui disent.
Personne n'était chaud au départ.
Personne n'était chaud. Hein.
Après, voilà, moi j'essaie d'inciter à le prendre parce que sinon, c'est-à-dire que moi en tant que meneur de jeu, j'interprète le prince Alexis. Donc du coup, j'interprète celui qui va vous donner des ordres. Donc c'est un peu. Je trouve l'expérience de jeu moins intéressante. Mais c'est vrai que j'ai fait jouer à des tables où personne ne veut le prince Alexis. Du coup, voilà, c'est.
C'est vraiment dommage parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Quand
comme des fois, cette personne ne veut jouer la sorcière de la destinée parce que bon, c'est une magie un peu compliquée. Enfin, tu vois, c'est pas.
Alors, c'est vrai que c'est un peu complexe. Ça, j'avoue que c'est un des problèmes moi de prise en main de mon personnage. J'ai quasiment passé un quart d'heure, 20 minutes, alors que vous attendiez à côté pour prendre le temps de lire.
T'as combien de pages par rapport à nous?
Oui, moi j'ai une page de feuille de perso. Toi, t'en as 5, je crois.
J'en ai trois. Non, faut pas exagérer.
4 du coup avec la feuille de perso elle-même.
Mais ça fait non, 2 en plus de. Non, mais par contre, c'est technique ce que j'ai en plus. C'est-à-dire, c'est vraiment et en plus c'est exposé bizarrement. C'est-à-dire que c'est il y a des choses sur la manière dont la magie est exposée sur les. On commence par les inconvénients en fait avant d'avoir les avantages et parfois c'est pas très clair. Ce qu'on peut faire avec ces inconvénients-là.
Donc c'est les pages qui sont tirées du kit d'introduction. Donc après, t'as une contrainte de place en fait qui fait que
voilà. Ceci dit,
les informations ont été organisées comme ça. Dans le livre de base, c'est beaucoup plus détaillé. Puis c'est vrai que quand tu crées ton personnage, ça permet aussi au meneur de jeu de t'expliquer en même temps que la création
bien sûr.
Que tu peux faire.
Ouais, bien sûr.
Après, j'avoue qu'on rechignait à prendre le prince Alexis, mais quand j'ai eu la feuille de personnage sous les yeux, le premier truc que je me suis dit, c'est tiens, ce serait un jeu sur PC. C'est le genre de personnage que j'aurais créé.
Et tu... Ouais. Tu l'as joué un petit peu, comment dire, un peu cynique, un peu parfois un peu retors, je sais pas comment dire, froid, pragmatique, voilà.
Il est pragmatique, hein, c'est un chef militaire.
Ah, tu l'as très bien joué.
On aurait pu imaginer, tu vois, qu'il soit plus aimant, plus amant. C'est quand même quelqu'un qui favorise aussi la démocratie, qui a des idées. Alors qu'en fait, il l'a joué assez autoritaire au final, Dorian, j'ai trouvé, sur certains points.
On peut être autoritaire et démocrate.
Ouais. De bonnes
idées. Il y en a que ça dérange pas.
De bonnes idées, en tout cas. Jérôme.
Moi, Romaric, comme toi, j'ai eu... moi, j'avais une deuxième page, moi aussi.
Ah.
Parce qu'en tant que dueliste, du coup, j'avais des avantages assez badass. Mais du coup,
de combat.
Ouais, en combat. Et par contre, tu arrives et on te file tout un tas de manœuvres, donc taillade, parade, feinte, fente, frappe, riposte. Et chacune, on ne peut pas employer deux fois la même d'affilée. Et chacune a des effets différents. Donc ça peut permettre d'encaisser un certain nombre de coups et d'en coller à l'autre si jamais il vient nous frapper. Mais si jamais c'est une frappe, c'est-à-dire qu'on peut par exemple aussi frapper avec le pommeau ou avec le poing pour cette fois-ci déstabiliser l'ennemi et lui faire perdre des dégâts sur la prochaine action qu'il fera. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est assez tactique et passer le premier ou deuxième round, moi, ça a très bien tourné. Ça.
Alors ça, c'est une réflexion globale que j'ai envie de faire sur le jeu. On va commencer les hostilités de ce podcast. C'est que j'ai trouvé qu'il y avait qu'on était vraiment dans une espèce de phase d'apprentissage au sens... comme si c'était un tutoriel, ce premier scénario.
Un scénario d'introduction.
Et ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est la première fois dans un jeu de rôle où vraiment j'ai la sensation que j'apprends des choses et après les actions, de me dire... Ah, si j'avais su, j'aurais fait différemment parce que tactiquement, c'était vraiment plus intéressant de faire différemment. Et à plein de reprises, ça m'a fait vraiment ça. Mais il y a même des fois où je me suis retourné vers toi, Vincent, et où j'ai dit, je peux revenir en arrière, puis tu me regardais avec ton grand sourire. Ah non, 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 non. Genre, amusé justement de te dire, bah ouais, la prochaine fois, tu feras mieux, mon gars. Et c'est ça, c'est pas mal. Je trouvais ça pas mal. Vous avez eu cette même sensation ?
Complètement. À un moment, j'ai regardé Vincent, même parce que j'avais une position spéciale en dégainant mon arme. Enfin, mon épée dans la main gauche et en me servant d'une dague dans la main droite. Mais il faut que je le fasse au début d'une ronde pour pouvoir en bénéficier dans mes jets de dés. Ouais. Et je l'ai fait sur ma première action, ce qui fait que ça m'a juste rapporté le style, quoi, mais c'était tout.
Et je pense qu'une des explications qui fait que cet apprentissage n'est pas frustrant, pourquoi est-ce que ça m'a marqué dans ce jeu et ça ne me marque pas par ailleurs dans le jeu, c'est parce que comme on ne peut pas perdre, et comme par ailleurs, plus on prend des coups, plus on a des avantages... Bah en fait, l'échec n'est pas frustrant. On n'est pas dans du dead and retry, on est dans du retry and retry, en fait. Tu vois, il n'y a pas une sanction. Au contraire, quand on prend des coups, bah on est plus fort après, donc on peut encore plus apprendre. Enfin, il y a un côté...
Et il y a une fluidité du système, malgré tout.
Oui.
C'est vraiment... La manière dont c'était découpé, j'ai trouvé même que ça marchait beaucoup mieux dans les phases où il se passe ce que j'ai appelé les scènes d'action.
Ouais. Scène de bagarre.
Oui, c'est ça. J'avais découpé en scène d'action. Non, parce que c'était pas forcément que de la bagarre.
Oui.
Entre scène d'action et scène d'aventure, c'est ce que j'avais dit. Je crois que ça marchait très très bien dans les scènes d'action, parce que ça va vite. Le système permet que ça aille vite. Et il y a le geste de tu mises et du coup tu jettes ton jeton. Je trouve que le jeton comme matériel de jeu, ça marche super bien.
Ouais, ça arrive.
Faut expliquer ça. Oui. Il va falloir expliquer ça en détail.
Okay.
Si quelqu'un est motivé pour
Allez,
expliquer le système des jetons,
nous avons du coup des caractéristiques qui va entre 1 et 5 points. Et ensuite, on a des compétences, pareil, qui peut aller de 0 à 5 points.
On peut citer les caractéristiques, hein, il y en a 5.
Alors, force, finesse, résolution, astuce et panache. Panache, un peu le charisme, on se posait la question, savoir comment l'utiliser. Les compétences, je ne veux pas la liste, mais grosso modo, il y a armes blanches comme équitation, tir, vigilance, des choses comme ça. Donc du coup, si je voulais utiliser mes armes blanches, je prenais généralement, moi, de mon côté, finesse et armes blanches.
Finesse, j'avais... c'est la dextérité.
C'est ça.
C'était pas évident. Résolution, c'était la volonté aussi, ça, il faut savoir.
Finesse, j'ai 4, armes blanches, j'ai 3, donc ça me faisait prendre 7 dés.
Alors 7 dés 10, 7 dés à 10 faces qu'on va prendre.
On jette les 7 dés, on additionne et on arrondit à inférieur, ça donne le nombre de jetons. C'est-à-dire que si j'ai fait 42, on me donne 4 jetons.
Donc si vous réfléchissez un petit peu, vous dites tiens, si je lance 7 dés, des dés 10, en moyenne ça fait 5. 7 fois 5, 35. Vous avez, si vous lancez 7 dés, en moyenne 3 jetons que vous allez récupérer. Mais. Vas-y, je t'en prie.
Avec le... Non, je sais pas, parce que moi j'allais rajouter ce qui est une couche supplémentaire que je trouve très intéressante, qui est celle des jetons d'héroïsme.
Ah d'accord. Alors, on rentre pas tout de suite dans ce détail. Je voudrais qu'on explique bien comment on utilise les premiers types de jetons d'abord, et ensuite on passera aux jetons d'héroïque. À ce moment-là, je te passerai la parole, oui. Dorian. L'idée en fait de ces jetons, c'est qu'on les prend quand on lance les dés sous certaines caractéristiques. C'est-à-dire qu'on a, c'est la nature du jet de dés qu'on a lancé qui détermine la nature des jetons. Si j'ai lancé par exemple un jet d'arme blanche plus finesse, mes jetons vont me servir au cours du combat à être dépensés pour utiliser mon arme blanche et ma finesse.
Surtout.
Surtout, parce que j'en dépense un pour obtenir une réussite dans ce domaine. Si je veux faire autre chose, par exemple, donc là j'ai pris comme exemple finesse plus arme blanche, donc si je veux faire autre chose, parler, persuader, etc., je vais devoir dépenser deux jetons pour réussir une action. Donc, quand je choisis au début d'une scène d'action de rentrer dans un type d'action donnée, c'est plus difficile d'en sortir et de faire autre chose que de rester sur ce type d'action. Autrement dit, quand je me suis lancé dans « Poum la guerre », eh ben, c'est mieux de rester dans « Poum la guerre » que de passer d'un coup de « Poum la guerre » à « Persuasion », etc. etc. C'est, voilà. Ça, déjà, c'est une subtilité qui est importante à comprendre. C'est que ces jetons ont une nature, en fait. Et après, bah, chaque jeton, deux jetons, c'est un joker. On peut les dépenser à ce moment-là pour n'importe quelle nature. Et tu voulais rajouter la couche héroïque.
Oui, ce qui est des jetons d'héroïsme, et qui est une mécanique que moi, j'ai beaucoup aimé dans le jeu. Parce que souvent, moi, j'aime bien quand on peut déduire le roleplay d'un personnage à partir de sa fiche de perso. Souvent, je suis un peu perdu où je me dis, à partir de ma fiche de personnage, je ne sais pas forcément comment je vais le jouer.
Oui.
Ce qui n'est pas le cas là, ici. Parce qu'il y a certains pouvoirs qui réclament ce qu'on appelle des jetons d'héroïsme. Mmh. Et il y a une manière de récupérer ces jetons d'héroïsme, c'est qu'il y a des avantages ou même des défauts.
C'est ça.
Et quand tu plies à ces défauts-là de ton personnage, tu gagnes des points d'héroïsme.
Ouais.
Par exemple, là, en tant qu'aristocrate, si je me basais sur ma réputation pour convaincre quelqu'un, j'obtenais un jeton d'héroïsme. Mais comme j'étais naïf, par ailleurs, si j'acceptais des deals qui m'étaient désavantageux, je gagnais un point d'héroïsme après, qui me permettait de déclencher des pouvoirs après ou d'obtenir des dés supplémentaires sur la partie d'après.
Donc plus tu joues en cohérence avec ton personnage, plus tu gagnes des points d'héroïsme qui te seront utiles pour obtenir les premiers jetons dont on a parlé précédemment, ou des bienfaits, parce qu'il y a des choses que tu peux dépenser un point d'héroïsme pour obtenir des bienfaits directement.
Et là, je vais sortir un peu les gros mots qui moi me viennent du jeu vidéo, mais sur les trucs ludonarratifs, sur la cohérence ludonarrative du jeu, il y a un truc que je trouve génial, c'est que le maître du jeu, par ailleurs, obtient des pions de danger aussi. Et souvent, au prix de, on peut avoir un pion d'héroïsme et le maître du jeu a un pion de danger, qui est l'équivalent pour les antagonistes du jeu, qui sont les scélérats, grosso modo.
Qui est l'équivalent, donc les actions réussies pour des scélérats.
C'est ça.
Ouais. Et ce qui est cool aussi, c'est que,
Valentin,
comme on connaissait pas bien, quand ils nous en proposaient, on se méfiait et au final, on aurait dû accepter. C'est intéressant, ouais.
Ouais, c'est un système de corruption. Ouais. C'est-à-dire, c'est comme si on faisait un pacte avec le diable, c'est-à-dire. Il le jouait un peu comme ça, d'ailleurs.
Alors voilà, Vincent. C'est ça. C'est plus Vincent qui le jouait comme ça. Je pense que ça peut être aussi très calculatoire. Vincent le jouait vachement corrupteur, genre, moi je prends un peu
de danger. T'es sûr?
Alors, est-ce que c'est dit dans la base, Vincent, tu vas nous répondre, est-ce que c'est dit dans la base que le maître de jeu doit proposer ça de cette manière-là? C'est très important, hein. Est-ce que oui ou non c'est dit ou pas? Ou est-ce que non, c'est un move, en fait, naturel que les joueurs peuvent faire?
Non, c'est la mécanique est donnée dans les règles, mais de manière relativement neutre, quoi.
Donc ça veut dire que c'est un move.
Après, dans les conseils OMJ, qui sont en fin de bouquin, ils conseillent quand même de
la jouer un peu dans ta situation.
Ouais, voilà. Ouais.
Et du coup, je finis sur ce que je disais sur la cohérence ludonarrative. C'est le fait que toutes les vocabulaires du jeu, c'est-à-dire que quand on constitue son pool de jetons, c'est la prise de risque. Après, on mise avec des jetons comme sur un jeu d'argent. Donc, toute la thématique du jeu a l'air d'être autour de la prise de risque. Et du coup, faire gagner des pions de danger et augmenter le danger, ça fait partie de l'impression de tout le thème et de la mécanique du jeu. C'est on joue à se mettre en danger. C'est aussi, on nous a prévenu, c'était KPDP. Hein.
Ouais, tout à fait.
Et quand on dit qu'on jouait avec des jetons, ce sont des jetons de poker avec lesquels on jouait, là. Ouais. Enfin, du coup, ça rajoutait encore plus
À la couleur de ce côté-là. Et autre élément qui...
Juste un truc sur les jetons de poker, c'est mes jetons qui sont à moi, en fait. Enfin, après, il y a des jetons officiels, 7e mer, enfin, tu vois. Voilà, là, c'est... Okay.
Mais c'est peut-être pas un hasard si tu as choisi ces types de jetons pour jouer à ce jeu-là, tu vois. Je sais
oui,
pas.
Bah, je trouve qu'ils sont agréables à manipuler, quoi.
Pour aller encore dans le sens de Dorian, le coup des traits aussi. négatif que tu joues, c'est-à-dire tu te fais arriver des merdes et ça te fait gagner des points d'héroïsme, ça va à fond dans, le sens, dans ce sens que tu expliquais tout à l'heure. Tu prends des risques dans la fiction qui te font gagner effectivement des points qui vont te faire prendre encore plus de risques et il y a une espèce d'entraînement comme ça.
Parce que je sais que tu l'as relevé dans la partie, mais moi j'avais pas oublié le truc d'introduction où on m'a dit c'est KPDP. Donc je me suis dit bah, c'est un truc de KPDP, quoi. Donc il faut qu'il y ait du spectacle là.
Ouais, d'accord, ouais, c'est excellent.
C'est ça.
Donc ça, l'aspect des jetons, est-ce que vous avez rencontré des problèmes avec ça? Est-ce que la mécanique a... Non, vous avez trouvé que ça tournait à fond, à fond, à fond. Est-ce que vous avez des choses à dire?
J'ai juste eu au tout début, parce que j'avais certainement pas tout compris aux règles, mais c'était au niveau de l'initiative. En fait, quand on lance les dés, on en a 2-3 qui arrivent. Et sur le début, en fait, des fois, je proposais mes idées. Parce qu'au début, on choisit ce qu'on veut faire. Donc, on choisit la force, par exemple, et l'art militaire. Et puis, en fait, on n'a pas l'initiative. Tu restes bloqué. Tu dis, mince, bah, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant avec ce que j'ai choisi? Et donc, au début, moi, j'étais un peu perdu avec ça.
Ça, c'est intéressant. Comment? Alors, ça, c'est intéressant. Ça nous permet de rappeler quelque chose qu'on n'a pas encore expliqué. Dans quel tour de jeu, au cours des scènes d'action, comme dit Dorian, donc pas au cours des phases d'exploration, de discussion, d'aventure et compagnie, au cours des scènes d'action, comment est-ce que se détermine l'initiative? Vincent, est-ce que tu peux réexpliquer ça?
C'est celui qui a le plus de jetons qui joue en premier.
Voilà.
Et là, en cas d'égalité, c'est méchant. Les méchants jouent avant les gentils.
Ouais. Ouais. Donc, c'est assez bizarre.
Alors, c'est un jeu d'optimisateur, hein, 7ème mer. Enfin, je veux dire, ce système, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais c'est un jeu d'optimisateur. Et d'ailleurs, pendant la partie, ça s'est carrément vu. C'est-à-dire que vous avez commencé les premiers tours du combat, vous aviez 2-3 jetons, on a fini la première grande scène d'action, on aviez 5-6. Donc, vous aviez bien pigé comment fonctionnait le système et vous optimisiez vos actions pour que vos personnages puissent faire plein de trucs.
Je suis d'accord, ouais. Jérémy.
En fait, en début de partie, justement, comme on appréhendait ces règles-là, on est tous partis à faire ce qu'on voulait faire. Et alors qu'en fait, on avait le choix de discuter en disant bah, si toi, justement, tu optimises un peu cette partie-là, tu vas faire la partie vigilance dans cette scène-là, pendant que toi, t'es le bourrin, tu vas faire la partie combat, toi, t'es le parti charisme, donc tu vas faire le charisme. Ouais. Et donc, au départ, on est tous un peu partis dans notre truc, on est tous sur notre trip, et en fait, dès le milieu de la scène 1, on était séparés, on était en deux, voire trois groupes.
Ouais.
Alors que le dernier acte, on était carrément soudés. On ne voulait même pas se séparer.
Ouais. Clairement, il y a une force de synergie qui est encouragée. Et, ouais, c'est un vrai jeu de coopération, je pense. Vraiment, et oui, comme tu dis, ça s'est fait naturellement. À la fin, on agissait de concert, quoi, parce que le système l'encourage. Comme on est obligé de choisir la compétence qu'on va utiliser pendant toute la prochaine, le prochain tour, plusieurs rondes même.
Plusieurs rondes, mais oui, c'est ça. Ça peut être condamné à se battre.
Ça peut être 4 ou 5 rondes avec une seule compétence. Donc, du coup, ça force à se répartir des rôles plutôt qu'à simplement décider dans l'instant. Et ça, c'est cool.
Jérémy.
Oui, juste pour dire, du coup, on a cette phase-là de choix stratégique un peu tous ensemble. Et justement, puisqu'ensuite tout le monde agit, mais aussi les méchants, il y a une phase un peu d'aléa qui se rajoute. Et donc, en effet, comme on est imposé de faire quelque chose, il faut se débrouiller avec ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on a quand même, je trouve, une grande liberté de narration pour retourner un peu l'histoire dans notre sens. J'ai eu cette sensation-là. Mmh. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment apporter quelque chose à l'histoire pour que ça s'oriente bien.
Bah parce que réussir automatiquement, c'est automatiquement placer des éléments dans le décor qui te font réussir. Je cite un exemple. À un moment donné, donc, un type me ceinture littéralement. Eh bien, je vais dire... Bah, avec la bagarre, alors qu'à ce moment-là, en plus, mes jetons n'étaient pas de bagarre, donc j'ai dû dépenser deux jetons pour faire ça. Avec ma bagarre, je le pousse jusqu'à une fenêtre. Tiens, je viens de faire popper une fenêtre dans la fiction. Je viens, concrètement, de faire de la réification, c'est-à-dire de créer un nouvel objet dans la fiction, une fenêtre dans mon dos. Et ça a été ça tout le temps. Par exemple, à un autre moment, j'utilise mon fouet pour faire tomber un lustre qui, du coup, n'avait pas été décrit par le meneur de jeu, et donc qui se met à exister de par le fait que je réussisse automatiquement une action. Donc voilà le pouvoir de narration qu'on récupère en fait de par l'improvisation de nos succès.
Et c'est agréable.
Et ça c'est agréable. Parce que dans un jeu où on propose quelque chose et où le maître de jeu dispose, il est toujours en droit d'interdire et de refuser certaines propositions. Ah non, il n'y a pas de fenêtre. Ah non, il n'y a pas de lustre. À partir du moment où tu dis, tu donnes un jeton, tu réussis, bah, tu imposes beaucoup plus de propositions à ton...
Et malgré tout, tu es cadré. Moi, ce que j'ai repéré, alors que... D'ailleurs, plus un problème de néophyte que de gens qui ont plus l'habitude déjà de jouer aux jeux de rôle.
De rien.
Qui est que quand t'es dans une situation comme ça où on te dit bah t'as telle compétence, etc. Parce que là, par exemple, tu peux te poser la question est-ce que je peux utiliser mon équitation, etc. Non, tu arrêtes de te la poser. Au bout d'un moment, tu t'es limité aussi malgré ton choix d'action. Même si tu peux dépenser deux jetons pour faire autre chose, t'as indiqué tu sais, bah là je vais blablater. Et donc même si ça se commence à tourner mal, tu vas quand même essayer de continuer à discuter. Et du coup. Tu restes aussi dans la prise de risque. Tu as pris le risque de dire bah, je vais dans la persuasion. C'est-à-dire que là, pour toute la séquence, tu vas essayer d'être le beau parleur.
Ouais, c'est clair.
Il n'y a plus moyen de faire demi-tour.
Ces jetons, en fait, servent de direction artistique à toute la scène, quelque part. Et c'est vrai que, du coup, le fait que tu les aies choisis dans telle ou telle compétence t'oriente à fond. Je suis complètement d'accord. Alors, j'ai néanmoins quelques petites réserves. Alors, d'abord, une question très technique. Si je passe mon tour et donc je choisis de garder 3 jetons, mais que tu appelles le tour 2, qu'est-ce qui se passe? Je peux prendre l'initiative automatiquement? C'est arrivé une fois dans la fiction.
Oui, tu peux prendre de l'initiative automatiquement.
D'accord, je peux dire, c'était comme les gens qui retardent leurs actions dans les JDR et voilà, qui décident à ce moment-là de dire non, c'est moi qui joue parce que moi j'ai 3 jetons. D'accord, ça c'était une première question un peu opaque. Une autre, un truc que j'ai trouvé un peu opaque aussi, c'est quand est-ce qu'on a besoin de donner ces jetons? Est-ce qu'on les donne quand on veut réussir une action ou est-ce qu'on les donne quand on veut agir tout simplement? À plusieurs reprises dans la partie, des joueurs...
Ouais. Il l'a expliqué plusieurs fois. Il a répondu à chaque fois en disant, de base, c'est le maître du jeu qui décide en fonction du roleplay. Et si tu veux forcer ça dans la fiction, tu donnes un jeton à condition que ce soit en rapport avec les caractéristiques que tu avais choisies.
Est-ce que ça veut dire, Dorian, qu'un beau parleur, quelqu'un qui est capable de raconter bien une scène va avoir besoin un beau séducteur de MJ va avoir besoin de donner un jeton ou pas?
Alors a priori moi je dirais non, mais la manière dont j'ai joué le truc, moi c'est ce que je me suis dit, c'est au début toi tu m'as fait sauvegarder des jetons, mais tu en parlais que tu m'as fait garder des jetons parce que je les utilisais, parce que moi ce que je
bien,
m'étais dit
parce que tu les utilisais bien.
Non, mais ce que je me suis dit c'est dès que je veux que ça passe je les utilise, je me retiens pas, et en fait les négociations avec le MJ on verra après une fois que j'en aurai plus.
Ah d'accord. Ok, ça c'est intéressant. Je te donne un exemple concret où moi ça m'a posé problème. On est dans une scène d'action. Je me fais planter une dague dans le dos. Je tombe au sol. Un ennemi derrière moi. Je te dis, je me relève. Je te tends 2 jetons. Ah, tu me dis, non Romaric, t'as pas besoin, te relever c'est gratuit. Après je te dis, mais et la dague elle est plantée dans mon dos, enfin je l'enlève. Ah non mais c'est gratuit. Là, pourquoi ces actions sont gratuites? Alors que franchement, c'est des actions difficiles. Tu viens de te faire planter une dague dans le dos, t'es tombé par terre, la dague est dans le dos, tu la retires, et tu me dis, non, ça ne nécessite pas de jetons. Attends, il y a des MJ sadiques, ou on va dire plus difficiles, plus exigeants, qui feront retirer des jetons. Et du coup, je pense que dans ce jeu, il y a un petit potentiel à quelle est la part d'acceptabilité du meneur. Tu vois, jusqu'où est-ce qu'il est prêt à... Vincent.
Alors, alors, de base, vous êtes dans un film de KPDP, donc, enfin, dans un jeu de KPDP, donc vous jouez des héros, si tu veux. On t'a planté une dague dans le dos, mais, enfin,
ça pique.
Voilà, ça pique. Enfin, tu vois, t'es pas dans un jeu comme L'Appel de Cthulhu, on t'a planté une dague dans le dos, t'es à l'article de la mort, quoi. Là, bon, voilà, c'est...
C'est vrai, ça ne fait que piquer, d'ailleurs. Concrètement,
concrètement,
on a beaucoup de points de vie, et on... Franchement, pour mourir... à un moment donné, on avait un personnage qui avait une dague dans le dos. Oui, on peut pas mourir, mais je veux dire, même les méchants, c'était dur, quoi. Il avait une dague dans le dos. Il avait une épée dans le dos. Une dague dans le cœur. Il s'était pris plusieurs coups de poing.
Il s'est fait on l'a jeté du deuxième étage, il s'est fait tirer dessus et il est toujours pas mort à la fin du scénario.
Ouais, exactement.
Et on l'a jeté dans une rivière aussi.
Il est fort.
C'est ça. Il est très fort.
C'est solide, quoi.
Ouais,
l'a noyé.
C'est un boss de RPG.
Oui, voilà, nous, on est pareil.
Vous êtes pareil. Ouais. Donc, du coup, voilà. Donc,
Vincent,
vas-y. Il faut vraiment dans le jeu distinguer les scènes d'action de ce qu'ils appellent les scènes dramatiques, en fait. Donc, les jetons s'utilisent différemment. Dans les scènes d'action, tu fais une action, tu dépenses un jeton, en fait. Mais on va considérer que dégainer ton arme, toi, te déplacer un petit peu, voilà, te relever, c'est des actions entre guillemets gratuites, quoi, si tu veux. Une action, c'est vraiment quand tu interagis avec le reste de la scène, avec le reste de l'histoire.
Alors, à quoi sert l'athlétisme, du coup
À courir. À courir vite, aller d'un point A à un point B très vite. Alors, si tu te déplaces tout doucement, comme ça... C'est tu te déplaces quoi simplement, mais si tu veux piquer un spring pour être le
ou escalader quelque chose
ou escalader, il te faut un jeton forcément. D'accord. Dans une scène de combat, dans une scène d'action.
Jérôme, tu veux interrompre?
Ouais, je pense que ce qui t'a posé problème, Rodaric, à ce moment-là, c'est un problème d'échelle que tu n'avais pas encore fixé, bah,
comme Jérémy.
Ouais, comme Jérémy vient de le dire, enfin, on est des boss de RPG. En fait, on est dans Final Fantasy, on a 6000 HP, le truc il te fait 300, enfin, littéralement, il t'a collé 3 ou 4 dégâts, on peut en prendre 20. Donc, enfin, pour moi, en fait, c'était évident que c'était gratuit, tu vois, d'enlever la dague. Mais non, mais après.
J'ai d'autres exemples. Hein. J'ai d'autres exemples, des exemples aussi de rôle, de par exemple le moment où on va voir des banquiers pour essayer de les convaincre.
Là, on n'est plus en scène d'action.
On n'est plus en scène d'action.
Et c'est en séquence dramatique.
C'est le moment où je t'ai vu pas comprendre que j'ai compris que j'avais pas compris non plus.
Vas-y, d'accord. Dorian, explique-moi tout ça.
Non, c'est parce qu'en fait, c'est en te voyant pas comprendre ce qui se passait quand on est passé de là. En fait, on a commencé par une scène d'action et après on est passé sur une scène dramatique. Et en fait, la transition n'a pas été claire pour les joueurs, j'ai l'impression. Parce que c'est très clair la manière dont tu dépenses les pions quand t'es en scène d'action. Ouais. C'est une action, un ou deux jetons. Quand t'arrives en scène dramatique, c'est quand tu veux forcer l'histoire que tu mets des jetons. Ouais, ça, on l'avait pas compris au début. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais pas compris. Toi, ouais. Et c'est quand je t'ai vu manifestement ne pas comprendre ça que j'ai compris que c'était ça la mécanique.
Ouais, d'accord, ok. C'est vrai que c'est à ce moment-là surtout moi que ça m'a posé problème. Mais je voulais citer des exemples de combats aussi parce que je trouvais qu'en fait j'avais l'impression que le système donnait quand même une part importante d'interprétation du MJ vis-à-vis des actions. Vincent m'a plus ou moins convaincu, je reste encore à convaincre. Il faudrait faire plusieurs parties pour voir ce que ça donne concrètement, mais pourquoi pas.
On part dans les séquences de combat.
Dans la séquence de combat, ouais, c'est-à-dire que tu vas avoir des MJ qui vont demander, moi j'en suis convaincu, tu vas avoir des MJ qui vont demander à ce que des jetons, pour se relever et s'enlever une dague dans le dos, tu vas avoir des MJ qui vont demander un jeton pour faire une telle action. Là où toi, t'as été beaucoup plus permissif. Et du coup, ça va influencer grandement.
Je retrouve dans le bouquin comment c'est décrit, voilà, le livre de base t'explique quand même que les joueurs sont des héros, des individus exceptionnels, quoi. Et en plus les héros de l'histoire, quoi. Enfin, je veux dire, on est là pour que vous gagniez à la fin, de toute façon, comme dans tout bon film de KPDP. Donc voilà, je pense que alors des MJ sadiques, il y en a un peu partout, mais si tu joues comme prescrit dans le livre de règles, ça me semble relativement évident que tu as joué comme ça.
D'accord.
Après, pour les séquences dramatiques, comment ça fonctionne? Comment dire? On va dire que c'est une espèce d'honnêteté, tu vois. On fait pas jeter des dés qui font du bruit derrière le paravent, en fait. C'est-à-dire que tu fais une action et puis moi je vais décider si oui ou non ça m'arrange. Au lieu de faire semblant qu'il y a un peu de hasard et que ça marche ou ça marche pas, je vais te dire oui ça marche ou non ça marche pas. Et le jeton, en fait, si je te dis non ça ne fonctionne pas, ton jeton te permet de m'imposer le fait que ça fonctionne. Ce qui fait que c'est un système, c'est un système de règles pour les enquêtes qui est hyper difficile à manier. Puisque c'est un système qui peut péter une enquête n'importe comment. Si tu mets une enquête pour meurtre, par exemple, des jetons bien dépensés, ça peut tout de suite te flinguer le truc. T'as intérêt à bien blinder tes scénars à l'avance. Quoi.
Et donc ça fait notamment partie des conseils, j'imagine, de la...
Ah oui, ça fait aussi partie des...
Ah, c'est d'accord, ok. Donc tu vois là ça c'est une difficulté que j'avais pas.
Ouais, alors dans le scénario ça n'y était pas, quoi. Mais voilà, mais il faut quand même te enfin c'est par rapport à la manière de jouer sur des jeux de rôle traditionnels comme ça où tu as un MJ tout puissant. 7ème mer, c'est un jeu dans lequel les joueurs t'imposent des trucs, quoi. Dans lequel les joueurs peuvent te baiser. C'est un putain de jeu stratégique, 7ème mer. Ouais. Tu vois, moi j'ai lu pas mal d'articles qui disent que c'est un jeu très narratif et tout. C'est pas vrai, c'est un jeu ludiste qui est complètement basé sur la tactique, l'optimisation des personnages, la coopération et globalement comment baiser le MJ, quoi. Ça fait partie du truc.
Ouais. Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, par rapport au choix d'action, on a oublié de dire un petit truc, mais qui joue aussi sur la mécanique. C'est que quand on utilise pour la première fois une compétence dans une scène, on a un dé supplémentaire, ce qui nous pousse aussi, si on doit avoir plusieurs rounds de jet de jetons, de décider aussi de varier. C'est un petit détail, mais je trouve ça quand même intéressant de dire, on va pas toujours jouer sur la même mécanique en disant, je suis l'archer, donc j'ai toujours utilisé finesse et puis tir à l'arc, quoi, par exemple.
Oui, tout à fait. Un truc aussi de coopération qu'on n'a pas utilisé, c'est le coût des points d'héroïsme. Quand tu le dépenses pour toi-même, ça te donne un dé supplémentaire. Quand tu le dépenses pour un autre, ça te
donne. J'en ai utilisé une fois pour mon prince, justement.
Ah, t'as utilisé.
Quand je t'ai justement la fameuse première scène où on s'est divisé, je suis revenu parce que je suis quand même le garde du corps. J'ai utilisé camaraderie qui m'a permis de donner un bonus à mon prince en utilisant un jeton d'héroïsme. Et en effet, c'est bien utile parce que c'est 4 dés dans l'affaire.
Ouais, c'est
et donc, du coup, c'est potentiellement 2 jetons supplémentaires.
Ouais.
Et effectivement, comme on est sur des trucs très mécaniques, c'est vrai que nos persos sont spécialisés, mais il y a quand même une certaine versatilité, vu que, quoi qu'il arrive, en cumulant ta caractéristique et ta compétence, c'est 10 le maximum, mais te retrouver à jeter 4 ou 5 dés, quelles que soient les combinaisons que tu fais, c'est très facile de exactement, passer à autre chose. Ouais.
Moi, ce que j'ai trouvé dans ce jeu, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire. Et moi, c'est ce que je trouve dans beaucoup de jeux de rôle traditionnels. Pour moi, le principal défaut, c'est pas le dirigisme du jeu de rôle traditionnel. C'est pas le dirigisme, le principal défaut. C'est l'arbitraire. C'est-à-dire qu'en fait, que ce soit les réussites ou les échecs sur un mauvais jet de dé ou un bon jet de dé, ça peut passer comme ça peut pas passer. C'est complètement arbitraire, souvent injustifié fictionnellement. Que ce soit par rapport à quand on fait les jets de dé ou quand on les fait pas, c'est le maître de jeu qui décide, c'est arbitraire. Tout est un peu arbitraire dans le jeu de rôle traditionnel. Et là, je trouve que le jeu réussit à réguler, en fait, de façon à donner des règles qui empêchent l'arbitraire. Les choses sont très bien réglées, on sait ce qu'on peut faire, on sait ce qu'on peut pas faire. Chacun a ses règles dans... Et donc ça, c'est vrai que l'absence du coup d'arbitraire fait que, oui, on a la place pour un jeu vraiment ludiste, au sens où, ouais, le but, c'est de faire le meilleur move, de trouver dans la fiction et dans la feuille de personnage les meilleurs éléments à décrire et les meilleures propositions à faire et à imposer à son meneur de jeu pour avancer le plus possible dans l'histoire, Jérôme.
Ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord.
Voilà. Vincent.
Oui, voilà, j'ai juste relu dans le livre de base par rapport à ce que tu me disais là sur l'arbitraire, en fait. Ouais. Donc, il est bien dit que voilà, tu utilises tes mises pour des actions dangereuses ou cruciales. Donc, c'est-à-dire que, bon, alors après, tu vas me dire qu'il y a peut-être de l'arbitraire. J'ai estimé que te relever, c'était ni dangereux ni crucial, en fait, et que du coup, ben voilà.
C'est... Mais tu vois, je suis quand même obligé d'aller chercher un problème de fond de tiroir pour retrouver l'arbitraire du jeu de rôle traditionnel. Et je dis bien, c'est un problème de fond de tiroir parce que globalement, ce jeu réussit à résoudre le problème de l'arbitraire dans le jeu de rôle traditionnel. Et en séance là, à mon avis, qu'il est moderne. Tu vois, c'est un jeu traditionnel moderne, comme on en parlait pour Shan Renaissance. Et un autre jeu auquel il m'a beaucoup pensé aussi, auquel je n'ai cessé de penser au cours de cette partie, et qui est très méconnu encore, et qui pourtant mérite le détour, c'est Terre suspendue de Julien Guibert. Toi, t'étais là, hein, quand on a fait le test.
Oui, je voulais l'évoquer d'ailleurs tout à l'heure. Ça m'a fait penser aussi un peu à Terre suspendue, dans la même idée d'appréhender les règles. C'est-à-dire qu'au départ, on était aussi un petit peu perdu, et très très vite on apprend à être ensemble en utilisant des... Alors c'était pas des jetons, mais c'est dans le même principe.
Si, c'était des jetons dans le jeu de Terre suspendue. On dépense des jetons de couleur.
Ouais, c'était des billes d'eau qu'on avait. Ouais. Mais oui, effectivement, c'est la même chose. Ouais. Et ouais, exactement, ça a carrément fait penser à ce jeu-là.
Et je trouve... Mais après, bon, j'ai un... Alors justement, au sortir de cette partie, j'ai une petite préférence encore pour Terre suspendue. Voire un élément de liberté que je ne retrouve pas dans ce jeu-là, mais j'imagine qu'il y a des tas d'autres libertés que je n'ai pas encore explorées, évidemment. Dans ce jeu, mais l'élément de liberté que j'ai bien aimé dans Terre suspendue, c'est qu'on commence tout de suite avec tout un tas de jetons d'action possibles, et que du coup on est plus libre sur le changement de pied. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, Vincent, je te vois faire la mouche, je vais être plus clair. Je trouve que dans ce jeu, le défaut, c'est la qualité que soulignait Dorian, c'est-à-dire cette direction artistique imposée au départ. On doit, avant que l'action n'ait lieu, on doit d'abord tous se mettre d'accord sur les rôles de chacun.
Et tu vois très vite c'est un problème qu'on a très vite surmonté. Parce que là, quand tu dis, on a peu de jetons au début, je sais pas combien tu commences de jetons avec Terre suspendue, mais là, on commençait avec peu de jetons au début, parce qu'on n'avait pas encore pensé à optimiser nos actions.
Alors voilà.
Dès qu'on a été dans des logiques ludistes, tout de suite, on a eu plein de jetons.
C'est vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix du type de jeton que tu prends dans 7ème mer est fait a priori, c'est-à-dire avant l'action. Tu ne choisis pas au cours du combat et au cours de l'action le type d'action que tu vas entreprendre, puisque changer de type d'action une fois que c'est décidé avant le combat, c'est sanctionné puisque tu dois dépenser plus de points, d'accord ? Ce qui évite le changement de pied. Ce qui veut dire que du coup... Et mon problème un peu, c'est que stratégiquement, le maelstrom, c'est-à-dire toutes les réflexions autour des situations possibles, va avoir lieu avant le déroulement de l'action. parce qu'on va s'interroger sur comment la fiction va se dérouler dans le futur et pas au moment où ce contenu fictionnel se déroule. Là où c'est le cas dans Terre suspendue, où on s'interroge sur le contenu fictionnel est en cours quand on s'interroge. Mon gros problème avec ce jeu, puis ensuite je te donne la parole Jérôme, j'ai très peur que dans une table vraiment d'optimisateur, eh bien, on se prenne la tête avant les scènes d'action sur ce qu'on va faire pendant la scène d'action et qu'on se retrouve dans des problèmes, vous savez, ces problèmes dans le jeu de rôle traditionnel où on passe des plombes à savoir si oui ou non on enterre notre arme avant de rentrer dans une ville parce que machin. Et au final, l'histoire n'avance pas.
Je pense que c'est peut-être possible. En tout cas, peut-être pas pendant des plombes, mais ça peut arriver régulièrement. Nous déjà, effectivement, c'est ce qu'on se demandait. Et c'est vrai qu'il y a une phase comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas ça. Ils se disent les phases où on fait des plombes, blabla.
C'est arrivé au cours de cette partie.
Oui.
À la fin de la première scène d'action, il y a eu un énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé chute d'ambiance, un énorme trou d'air quand on a commencé à changer de phase et qu'on est passé dans une phase.
Sauf que
Jérôme finit puis Dorian, je t'en prie. Vas-y, non, bah Dorian.
On n'était pas sur des logiques ludistes là justement. C'était pas des problèmes d'optimisateur. C'était des problèmes de plan dans la diégèse. C'était quasiment nos persos qui se prenaient la tête sur qu'est-ce qu'on fait maintenant étant donné la situation géopolitique de la cité.
D'accord.
Donc ce moment de creux n'était pas le même.
Tu le justifies comme ça. Ouais.
C'est pas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Et c'est comme ça aussi que je l'ai vécu. C'est-à-dire qu'on est passé à une scène où on était bien drivé à une situation et tout d'un coup on était libre de tout. Le problème c'est qu'on est 5 joueurs, on ne se connaît pas tous et donc il fallait trouver un plan qui plaise à tout le monde.
D'accord. Okay.
Donc il y avait le côté, il faut qu'on soit un peu quand même des héros, mais en même temps il y avait aussi la problématique sociale derrière. Donc on avait pas mal de pistes de réflexion et en fait, je pense personne osait vraiment prendre vraiment
les devants quoi.
Les devants parce qu'on voulait pas, peut-être qu'on veut tout simplement éviter l'effet leader aussi à ce moment-là. Mmh. Et donc on se dit, ben c'est quoi qui pourrait convenir un peu à tout le monde. Et on a tâtonné. Mmh. C'est la phase où on a tâtonné. Mmh.
Mais tu penses qu'avec l'expérience, ça aurait pu aller plus vite.
La réaction que je voulais faire, c'est que le problème, c'est que si le jeu était dans la suroptimisation, disons qu'il y avait une couche complexe d'inventaire, plus une couche complexe de sorts à sélectionner, là, on n'en sortirait plus. Là, le seul truc que les choses que tu cherches à optimiser, c'est ta caractéristique, ta compétence, avec tes avantages et avec tes avantages. Et c'est pas des trucs qui vont chercher très loin non plus. Hein,
Ok, mais vous m'avez convaincu. Je pense effectivement que ça peut aller plus rapidement que dans un jeu de rôle traditionnel et donc ne pas forcément être aussi ennuyeux que je le crains. Et d'ailleurs, dans cette partie, ça n'a pas eu lieu. Donc là, je suis un peu en train de dire j'ai peur de ceci, mais sans l'avoir expérimenté. Donc je m'incline.
Juste un truc dans les règles. Donc bon, là, je l'ai pas joué parce que c'est la partie d'introduction, en fait, mais ce qui est préconisé dans le livre de base, avec des joueurs qui connaissent bien le système, c'est que cette phase, on va dire, de programmation avant le tour, tu la chronomètres, en fait. C'est-à-dire que tu es dans une scène de combat, t'as pas 10 minutes devant toi, le MJ va te dire qu'est-ce que vous faites, vous avez, je sais pas, une minute, deux, enfin, toi, tu décides. Et vous vous mettez d'accord. Ouais. Du coup, ça peut se jouer très vite avec des joueurs qui connaissent bien le système. C'est du tac au tac. Il faut
C'est par expérience, puisque j'ai fait le même choix de game design dans Vademecum. Je peux te dire que le chronomètre, c'est vraiment le signe. Alors là, pour le coup, tu me donnes de l'eau à mon moulin. Que la crainte existait chez les designers du jeu. Tu vois ce que je veux dire ? S'ils ont mis un chronomètre, c'est parce qu'ils savaient que ça pouvait dégénérer et partir en mode.
Mais ouais, parce que
ça, je le sais parce que je l'ai fait moi-même. C'est le patch que j'ai choisi moi-même. Je leur jette pas la pierre.
Sur une scène dramatique, en fait, je trouve pas ça. Moi, je trouve pas ça dramatique en fait quand ça prend un peu longtemps pour que vous fassiez votre plan. Parce que concrètement, dans le jeu, vous pouvez prendre du temps pour faire votre plan. Mais c'est vrai que dans une scène de combat où tu dois réagir au tac au tac, ça peut vraiment. Enfin, c'est ce qu'ils disent dans le bouquin, casser le rythme de la partie. Si les joueurs ils mettent 10 minutes à chaque fois et donc du coup voilà ils préconisent quand même de
c'est aussi dans les scènes de combat que j'utilise les chronos pour mais comme Jérôme tu voulais
je pense que aussi ça doit vachement mieux s'apprivoiser si avec des personnages qu'on a créés
forcément.
Là on découvrait le système, on découvrait les persos aussi,
d'accord, okay.
Je pense que si t'as passé quelques temps à faire ton perso, ça doit être beaucoup plus fluide quoi. Tu te connais quoi, enfin entre guillemets.
Alors passer vos réflexions que je trouve bien intéressantes et tout, et encore une fois je m'incline là-dessus, j'ai quand même été parfois un peu frustré d'avoir choisi un truc a priori et que dans la scène par exemple j'ai été extrêmement frustré par le fait qu'on ait mal assigné le rôle de Valentin dans la dernière scène.
C'était ma faute aussi, j'ai pas trop... Moi je vous ai confiance alors du coup j'ai suivi, mais c'est vrai quand j'ai vu m'aider j'aurais dû quand même réagir. Je suis déçu Parce que je suis pas avoir eu le réflexe de dire mais non mais attendez les gars, c'est ça qui est...
Valentin, il a quand même quasiment pas joué la dernière scène au final.
Bon, le deuxième acte même en fait.
Ouais. C'est non, mais c'est ça, moi j'essayais de vous réorienter vers l'idée que t'avais eu d'Orient d'utiliser sans ça, le fait qu'il soit ordonné, qu'il soit prêtre en fait, parce que du coup se battre, je trouvais, enfin je voyais pas trop ce que ça pouvait donner, mais bon vous étiez parti là-dessus, donc bon c'est votre choix quoi.
Mais moi je m'en suis rendu compte au moment de Mou. Et c'est vrai que par exemple premier acte, moi je suis un peu parti de mon côté avec Jérémy aussi à un moment donné. Et c'est vrai que le seul personnage dont j'avais pas suivi, qu'est-ce qui s'était passé comme aventure pour lui, c'était celui de Valentin aussi. Je sais qu'il s'était battu, que c'était la bagarre, etc. Mais
dès la première scène, moi, je crois que je voulais fuir. Ou il y a un moment où je voulais absolument.
J'ai compris. Je voyais
que j'étais meneur d'hommes. Alors je voulais absolument moi, prendre les devants. Mais comme j'avais pas initiative, je le retrouvais toujours bloqué. Alors à la fin, je me dis mais je fais quoi? Bah, au final, je me suis caché.
Ouais, d'accord. Ouais.
T'as quand même permis l'évasion de tout le monde quoi à la fin.
Donc
oui, c'est vrai
de votre côté, pas de frustration sur le choix a priori des compétences utilisées au cours de la scène d'action ou de la scène dramatique. Vous sentez pas à un moment donné dans un carcan, parce que Dorian a souligné l'aspect, la qualité de ce système. Mais moi j'y vois aussi un espèce de défaut, c'est-à-dire que du coup quand t'es dans un rail, quand t'as choisi un truc, c'est difficile d'en sortir aussi je trouve. Et donc du coup ça, parfois t'as des supers idées et tu les proposes pas parce que
ça impose une contrainte, donc c'est bien aussi qu'il y ait une contrainte. Je comprends, hein, comme j'ai fait la partie de serre suspendue, je vois bien en effet la différence. Mais l'idée qu'il y ait cette contrainte-là, c'est bon, bah, on va se débrouiller avec ça. Mmh. Et donc il faut jouer à se débrouiller avec ça.
Et t'es pas coincé dedans quand même.
Non.
Je veux dire, tu peux complètement changer, c'est juste que t'agiras moins souvent.
Tout à fait.
Mais tu peux quand même changer comme tu veux.
Sauf quand t'as qu'un jeton.
Ah bah,
quand il te reste plus qu'un jeton. C'est quand il te reste plus qu'un jeton, moi, que je ressens.
Ah bah, il faut gérer tes jetons, quoi.
Et le problème, c'est pas quand il te reste plus qu'un jeton. Là où je comprends ta remarque, et là où je trouve qu'il y a un truc un peu contradictoire, c'est un jeu où tu peux pas échouer, mais où tu peux faire des décisions sous-optimales. Et en fait, les décisions sous-optimales, elles peuvent être très frustrantes. Parce que c'est vrai que, par exemple, il y a eu quelques choix de compétences de Valentin où tu as commencé le round avec un ou deux jetons. Et du coup, c'est pour ça que tu jouais en dernier aussi. Et tu jouais en dernier sans savoir pourquoi tes compétences que tu avais choisies au début pourraient être utiles en fin de combat.
Oui, voilà.
Et du coup, quand tu choisis mal tes compétences et que tu te retrouves avec peu de dés, c'est là où ça devient un carcan.
C'est ce que je vous disais au départ. C'est la difficulté de ce jeu, c'est de prendre les bonnes décisions.
Ouais, et c'est...
Mais c'est aussi son plaisir. C'est moi, après, quand on prend les bonnes décisions, on est content de les avoir.
Moi, tu vois, je vais te répondre, Mike, non, pas contraint et déçu par les choix comme ça, mais plutôt ce que dit Dorian, c'est déçu de moi, tu vois, quand c'est...
Très bien.
Et tu dis, merde, j'ai mal joué.
Ah, mais moi aussi.
Parce que c'est ludiste, en fait, c'est vraiment, et je ferai mieux la prochaine fois. Ouais. Parce que de toute façon, comme on disait, les boucles de gameplay vont vite. Donc au pire, tu sais que moi, quand je me suis chié là, sur mon combat à deux armes, t'inquiète pas que le tour d'après, j'ai tout défoncé, quoi.
Non, mais je m'incline encore une fois, parce que moi je suis très simulationniste, donc j'ai envie de proposer des choses esthétiques. Pardon, Jérémy.
Non, je rappuie encore un bon coup. L'acte 1, on est donc bien divisé, on a l'impression même, on a échoué. Ça va merder, on était mal parti, et quand même, à la fin de l'acte 1, on a fini par réussir à sortir de cette situation. Tous ensemble.
Tous ensemble, ce qui était vraiment mal parti.
C'est vrai que c'était un truc qui revenait souvent dans l'acte 1. Romaric répétait souvent qu'on était en situation d'échec et moi je trouvais que pas. Et c'est vrai que j'avais plus de jetons que toi, globalement.
Ouais.
Et je pense que tu peux y avoir différentes réactions autour de la table, autour de ça. J'imagine une partie où quelqu'un prend des séries de mauvaises décisions qui fait qu'il se retrouve avec grand max 3 jetons et qui voit son copain à côté qui lui optimise sur les compétences qu'il utilise et qui a une pile de jetons. Et je vois le genre de frustration que ça peut créer.
Moi je suis en tout cas là maintenant très curieux de voir les situations sur un bateau. Parce que du coup, comme moi, par exemple, le capitaine, forcément, il a le pied marin.
Valentin.
Après, je connais pas toutes les compétences des autres personnages, mais je pense que du coup, sur un lancer de dés, ça peut vraiment tout changer, j'imagine.
Oui, de la même manière que sur une scène d'action, en fait. Tu vois, sur un combat naval, toi, tu aurais utilisé navigation avec toi, ton astuce, tu aurais été plus tous tes avantages, tu aurais eu. Voilà, là où tu agissais peut-être moins que les autres, tu vois, pendant les combats, là, tu aurais agi vachement plus que les autres, quoi. Ouais. Après, dans le système de raid, le bateau est un peu compté, enfin, comme une sorte de personnage, en fait. Tu vois, il a des caractéristiques et tout, donc voilà, manœuvrer contre un autre bateau. S'il y avait eu un combat naval, ouais, tout de suite, tu étais en position de force, quoi.
Valentin, Vincent, est-ce que dans les avantages de Roberto et les avantages possibles dans le jeu, il y a quelque chose qui concerne l'équipage et la façon de le gérer
Là, il avait meneur d'hommes.
D'accord, ça ressemble à quoi en fait du coup?
Alors, meneur d'hommes, je peux dépenser un point d'héroïsme pour pousser un groupe à l'action. Ses membres doivent être capables de m'entendre et s'ils sont au moins neutres à mon égard, ils m'obéiront. Et tant que bah, je leur demande pas, par exemple, de jeter à bord, quoi. Faut que ça soit, ça reste quand même faisable et pas.
Ouais. Ça c'est une règle aussi que tu nous as précisé un petit peu à la volée, Vincent. Mais c'est qu'évidemment, on peut réussir, on peut forcer une proposition dans le jeu. Évidemment, elle ne doit pas être incohérente avec le contenu fictionnel décrit jusqu'à présent. C'est-à-dire, on saute pas jusqu'à la lune avec son épée.
Voilà,
on est dans un truc de cap et d'épée. On a donc des limites quand même physiques.
Oui, c'est par rapport à la cohérence de l'univers. Exactement, quoi, toi, rester 20 minutes en apnée sous l'eau, bon, voilà, c'est.
J'ai dû renoncer à ma queue d'écureuil.
Et encore. Je sais pas. Ça c'est très bien. Donc je pense qu'on a bien fait le tour. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur ces jetons et ce système? Dernier petit point positif pour 7ème mer par rapport à ce système que je voudrais ajouter, c'est juste dire que. Un système dans lequel on dépense des jetons pour faire des propositions, ça invite aussi les joueurs en termes de timidité, de gouaille, à se mettre sur un pied d'égalité. Parce que tout le monde a des jetons, donc tout le monde fera des propositions. Et donc, du coup, il n'y a pas ce côté « c'est la grande gueule qui parle » qu'on trouve très très souvent dans les jeux traditionnels. Et c'est là aussi qu'on voit la modernité de 7ème mer par rapport à des jeux traditionnels du passé, c'est-à-dire le passé, entendre les jeux des années 2000 et avant. C'est que, justement, il invite vraiment tout le monde à prendre part au contenu fictionnel et à sa création. À travers ces jetons, j'ai trouvé qu'il était là aussi plus incitatif pour des joueurs débutants. Tout le monde a le droit de parler et tout le monde va avoir son heure de gloire. Et ça, c'est quand même important, tu vois. C'est pas... Il y a beaucoup de jeux traditionnels dans lesquels tu attends, en fait, ton tour pour parler. Là, ici, tout est très cadré et c'est élégant, tu vois, le côté... Voilà. D'autres éléments dont vous vouliez parler en dehors de ce système de jetons, Jérôme?
Moi j'ai une question pour Vincent. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans le manuel en termes de conseils ou voire méthodes pour la création de scénar?
Ah, tu nous as teasé là aussi, il faut dire.
À peu près, hein, je demande pas.
Pour la création de scénar, c'est-à-dire. Ouais.
Est-ce qu'on a des méthodes? Est-ce que,
pour créer le bon canevas de 7ème mer, tu vois, qui te permet d'avoir un maximum.
Il y a les canevas dans des murs, j'ai les fronts dans les Apocalypse World. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose là?
Ce qui est vraiment alors préconisé par le jeu, c'est de se servir des personnages et de l'historique que vous allez leur créer comme moteur, en fait. C'est-à-dire que voilà, vous allez créer avec votre feuille de personnage un background pour votre perso, et c'est utiliser ce background pour créer des pour créer des choses, créer des conflits. Enfin voilà, c'est voilà, mon père a disparu quand j'étais jeune. Il faut utiliser tous ces éléments des backgrounds pour essayer de créer des histoires, de mettre vraiment les joueurs les personnages au premier plan. C'est eux qui doivent être les héros de l'histoire, pas la subir en fait. Donc ça fait partie des trucs. Et puis ce que j'expliquais sur le système de points d'expérience, que moi je trouve plutôt chouette dedans, mais qui est aussi un moteur de scénario. Il n'y a pas de points d'expérience dans 7ème mer. On ne distribue pas des points à la fin, c'est-à-dire que quand vous voulez augmenter une compétence, vous créez une histoire qui va justifier que vous montiez en fait votre niveau. Donc par exemple, si vous avez 0 en arme à feu, vous voulez passer à 1, vous créez une histoire en disant voilà, je vais trouver un champ de tir et puis je vais tirer sur des bouteilles, quoi, si vous voulez. Et puis dans le scénario, bah, si vous le faites, à la fin du scénar, vous gagnerez un point, vous augmenterez votre compétence d'arme à feu.
Tu annonces, là encore avant le scénario, il va se passer ça?
Bah, tu annonces, tu crées ça, tu te dis, moi, je veux trouver un champ de tir et puis tirer sur des bouteilles. Tu vois, pendant le scénario, à un moment donné, s'il y a un creux, toi, si machin va faire un truc, et toi, tu sais pas quoi faire, bah, tu vas dans ton champ, puis tu tires sur des bouteilles, et puis à la fin, tu vas gagner ton point, pour un premier point. Si tu veux un deuxième point, c'est une une histoire en deux étapes, troisième point en trois étapes, quatre points en quatre étapes, etc. Plus tu veux une compétence haute, et plus l'histoire va être longue à résoudre.
Quand tu auras ton niveau 2, il faudra non seulement que tu trouves, par exemple, un maître d'armes qui t'apprenne à tirer, mais en plus qu'il te fasse faire un voyage dans un pays étranger qui sait particulièrement bien tirer et qui t'apprendra à tirer avec le cœur de ton esprit. Tu vois,
enfin, voilà, non, mais par exemple. Et donc, ça, c'est tout de suite un. Alors, pour les niveaux 1, en général, c'est assez simple, ça s'inclut dans des scénarios, mais tout de suite, quand tu vas augmenter sur le niveau 4, 5, ça devient des moteurs à scénario, en fait. Tu te sers de ça pour créer des aventures.
Et c'est-à-dire que est-ce que ton niveau 4, 5, tu peux le faire sur plusieurs scénarios?
T'es obligé de le faire. Tu peux faire qu'une étape par scénario, en fait.
D'accord, donc c'est-à-dire que quand tu le fais en 4 étapes, c'est en 4 scénarios
minimum.
Minimum. Parce que tu vois, si tu dis, voilà, je veux aller dans un chantier à tirer sur des bouteilles, si ton scénario d'après, ça se passe sur un bateau, bah, tu peux pas le faire. Quoi. Par contre, tu peux faire plusieurs histoires en même temps. Tu peux créer une histoire pour avoir un niveau 1 en arme à feu, une histoire pour obtenir un avantage à 3 points, une histoire pour obtenir, je sais pas, un niveau 4 en force, etc. Et puis, en fonction de ce qui se passe, tu essaies soit d'intégrer ça dans les scénarios, soit le MJ va faire quelque chose pour te permettre de l'avoir. Quoi. Je trouve ça plutôt chouette comme système d'expérience.
J'ai une autre question. Le fait que c'était très léger en feuille d'inventaire, c'était toi un choix pour le scénario ou c'est un choix du jeu en général?
Non, c'est un choix du jeu en général.
Parfait.
C'est-à-dire que là, oui, alors j'en ai pas parlé dans l'intro, mais il y a deux types d'armes. Il y a les armes à feu et tout le reste, en fait. Et toutes les armes font le même nombre de dommages, en fait. C'est-à-dire que tu te battes à la dague, au fleuret, au sabre ou à la hache à deux mains, c'est le même nombre de dommages. Voilà, on s'en fout de avec quoi tu te bats, c'est juste pour le style, en fait. Juste les armes à feu font un peu plus de dommages et prennent plus de temps à se recharger.
Ce qui vient vraiment renforcer cette idée que la réflexion tient lieu plutôt des postures qu'on va adopter dans telle situation que de comment dans le détail on va la réaliser.
Après, en termes d'inventaire, parce qu'on m'a déjà fait la réflexion sur des parties de démo, c'est pareil, vous êtes des héros, c'est-à-dire vous n'êtes pas des clodos, quoi. C'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui disent bah ouais, mais moi j'ai pas d'argent, je sais pas si je peux aller dans une taverne boire une bière, mais si, ben, t'es un héros dans un film de KPDP, enfin tu vois, tu peux peut-être pas t'acheter un château, mais t'auras toujours de quoi t'acheter une arme, ou enfin voilà, ça fait partie des choses qui.
Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Jérémy, vas-y.
Moi j'en avais 6. Hein. Ah.
T'avais 6 équipements,
tu j'avais 6 dagues.
Voilà. Tu décides au départ.
Il y a eu une petite négociation sur le nombre de dagues. J'ai 12 dagues à la ceinture. C'est... Vincent dit, on va peut-être diminuer à 6.
Ouais, j'ai pu payer ma tournée au bar. C'est...
Voilà, c'est oui, grave. Exactement. Nickel. Sans te prendre trop la tête là-dessus.
Moi, j'ai eu des menottes et j'ai même pas eu besoin de les noter dans mon inventaire avant de les avoir.
Exact. On les a même jamais retirées, ces menottes.
Mais tu vois, on les a retirées, on les a gardées. Moi, je voulais menoter quelqu'un et en fait, vous en étiez déjà débarrassé.
Ta belle-mère, salopard.
Vous en étiez déjà débarrassé.
Mais tu vois, de la même manière que la fenêtre là, qui est un peu apparue quand t'as poussé le garde. Ouais. Tu peux un peu inventer ton équipement au fur et à mesure, quoi. Enfin, tu vois, si t'as besoin. Enfin, ouais. Sur un truc exceptionnel qui n'arrive jamais, mais bon. Voilà,
le seul cas où ça m'a l'air d'être important, c'est pour les dualistes, quoi.
Avec les parades.
Ouais, pour les
parce
dualistes,
que moi, pour le coup,
important.
C'est quand je me bats avec une arme blanche, j'utilise arme blanche et mes trucs de duel, quoi. Que à main nue, du coup, j'ai plus du tout les mêmes attributs.
Et voilà, pour toi, il faut que tu utilises une dague ou une épée, quoi. Donc c'est vrai que si avec mon scélérat je te brise ton épée par exemple, tu ne peux plus utiliser tes bottes de dueliste, enfin ta botte de dueliste.
Ouais.
Donc ça fait partie des choix à faire.
D'ailleurs en parlant de ça, est-ce qu'on a parlé du système des coups de poing?
Ah non, on a
c'était
pas
vraiment
parlé.
Sympa, très intéressant. Ouais.
Alors voilà, alors ça,
ça c'est les trucs de dueliste. Ouais.
Et puis du point de vue général, c'est le truc des manœuvres. Ouais. Tu vois, il y a une manœuvre, donc pour expliquer ce que Valentin ici suggère, c'est on peut donner un coup de poing. Pour étourdir, alors tout coup de poing en fait, tout coup de poing donné, si j'ai bien compris. Vincent, vas-y, je t'en prie.
Non, ça c'est une manœuvre de dueliste.
C'est vraiment.
Alors les duellistes ont 5 manœuvres de combat, il n'y a que les duellistes qui les ont.
Ah, d'accord. Je croyais que moi-même, tu vois, je pouvais le faire.
Non.
Plusieurs fois dans le contenu,
si tu donnes un coup de poing, tu vas faire des points de dommage à ton adversaire. Si, si un dueliste donne un coup de poing, non seulement il fait donc, des points de dommage, mais en plus il a un petit effet supplémentaire.
D'accord, ok.
Il y a un côté, alors les duellistes ont 5 manœuvres en fait, ils ne peuvent pas utiliser 2 fois de suite la même. Donc voilà, s'ils font une taillade, ils ne peuvent pas ensuite refaire une taillade, ils sont obligés de faire
ça
des feintes, frapper.
Ça a joué dans le scénar, ça d'ailleurs. À plusieurs reprises, l'un et l'autre, vous avez dit merde, j'ai déjà fait ça, je peux pas le faire.
Ouais. Il y a même un moment où tu as ligoté un ennemi et ah non mais là c'est parce que j'avais plus de jetons.
D'accord.
Je crois.
Mais je sais qu'il y a plusieurs reprises, enfin, une reprise au moins, ouais, Vincent a dit.
Il y a une reprise où, comment dire, t'as détourné l'attention de l'ennemi pour qu'il le poignarde dans le dos. Et comme t'avais déjà fait une taillade au tour d'avant, tu pouvais plus la refaire une deuxième fois.
Ouais, c'est ça.
T'as dû trouver une autre solution pour achever ce gars. Ce qui oblige, encore une fois, ce qui pousse à la créativité, tu vois. T'es obligé à chaque fois d'inventer de nouvelles choses. Ça, c'est assez intéressant quand même. T'étais pas trop perdu quand même dans les trucs, Jérôme ?
Bah, une fois que j'ai compris que le coup de poing dans la gueule, ça marchait bien, et que quand j'en avais marre, je pouvais claquer la fente, qui est une espèce de gros gambit, quoi, parce que tu dépenses tous tes jetons d'un coup. Ouais. Par contre, tu colles toutes les blessures que tu aurais dû coller, plus le nombre de jetons que tu as dépensé.
D'accord. Ouais.
Donc, ça tabasse, quoi.
Et après, tu peux plus rien faire.
Ouais. Mais bon, bah, enfin. Quand j'en avais marre de réfléchir, je faisais ça.
Alors, sans spoiler, on n'a pas encore parlé de la fiction en elle-même. Sans spoiler, comment vous avez trouvé le contenu fictionnel en lui-même ? Est-ce que ça vous a plu ? Vous trouvez que c'est des enjeux intéressants ? Est-ce que...
c'était tout nouveau, là, quand on s'est retrouvé vraiment à se dire, bon, maintenant qu'on est caché, qu'est-ce qu'on fait ? Ça, j'avais jamais vu ça dans les jeux de rôle que j'ai fait précédemment.
Ah !
Et c'était vraiment, vraiment sympa.
C'est intéressant parce que c'est pourtant quelque chose qui se retrouve assez souvent. Le qu'est-ce qu'on fait dans un jeu de rôle, c'est... Yes, donc ça t'a plu en fait comme scène.
Ouais, beaucoup. Et puis la phase très... au début...
Très action. In media res, tu vois, on est directement dans le...
C'est ça, après le moment où du coup ça y est. Et la fin, je trouve, je vais pas dire épique, mais c'est intéressant. Je voyais bien
la scène.
La foule, la scène...
Moi pareil, le qu'est-ce qu'on fait, il m'a plu, mais je reprends si on y est tout à l'heure, il m'a plu alors que auparavant moi-même ça m'aurait fait chier que la situation que tu décris, mais là c'était pas un creux où on se prenait la tête sur du méta-jeu, on se prenait la tête encore une fois dans l'histoire, dans la fiction, c'était notre plan d'action de nos personnages, c'est qu'est-ce qu'on fait.
Je comprends. Moi néanmoins, tu vois, le moment, les scènes, par exemple, il y a un moment donné que j'ai trouvé très étrange, c'est le moment où... on prend des décisions. On prend des décisions sur justement ce qu'on va faire dans la fiction. Donc on a un plan d'action très très clair. Vincent nous demande de prendre nos risques, de jeter nos risques. Je sais plus c'est quoi le mot précis, Vincent.
Prendre un risque.
Donc au moment où on jette les dés, et puis il y a eu plusieurs scènes qui ont été jouées avec les jetons qu'on avait amassés au cours de ce jet de dés. Ça, c'est la première fois que je vois ça. C'est en fait en général dans un jeu de rôle. Les scènes fictionnelles découpent aussi les scènes mécaniques. Là, on a pris un risque pour 2 jours et pendant
pour
2 jours.
Pour une journée, ouais.
Tu vois ? Moi, j'étais parti dans la persuasion parce que j'allais faire une scène de persuasion avec le prochain personnage que j'allais rencontrer. Et au final, quand la scène se finit, il me reste des jetons. Et là, je te dis, pour la scène suivante, évidemment, on refait un lancer de dés, on refait un autre truc parce qu'on n'aborde pas un banquier comme on aborde une prostituée ou un voleur, un bandit et compagnie. Et tu me dis, non, tu gardes les mêmes jetons et tu restes sur le même pied. Ça, c'est de ça, j'ai trouvé ça bizarre.
Moi aussi, parce que j'étais persuadé qu'il y aurait plusieurs rounds dans les scènes dramatiques comme dans les scènes d'action.
C'est pour ça que vous avez tout dépensé direct, tous les deux.
Exactement.
Oui.
Moi, j'ai cramé comme un gros porc en me disant, lui, je le persuade, et puis la prochaine scène, je ferai autre chose.
Alors que nous trois, on était bien. Il nous restait plein de jetons.
J'étais en mode, on les regarde.
On peut considérer ça comme une... En fait, c'était la scène de préparation de votre plan.
Qui a duré longtemps. Comme une scène unique.
Voilà,
où certes, on fait plusieurs petites scènes, mais dans le fond, on fait la même chose tout au long. L'enjeu est le même, même si les scènes se succèdent. Différentes.
Pareil, j'ai vécu ça un peu bizarrement parce que j'avais pas senti ça après. C'est qu'à la fin, on se fait avoir. Et du coup, la troisième rencontre, moi, m'a un peu ennuyé pour le coup parce que du coup, j'ai l'impression qu'on a déjà vu croiser une personne, on a croisé une deuxième personne et quand on croise la troisième personne, je me suis dit, c'est bon, on a notre plan, grosso modo, c'est bon, passons à l'acte 3. Quoi.
Et Dorian. Moi, j'ai eu aussi le moment de la résolution qui était un peu anticlimatique parce que comme on avait passé énormément de temps à faire la préparation du plan. Et qu'après, du coup, on savait grosso modo le moment critique où il fallait jeter des jetons. Et où, du coup, c'était presque trop facile. Il n'y avait presque plus d'adversité sur la fin.
Alors, il a même, à un moment donné, j'ai vu que Vincent avait défaussé 5 jetons noirs posés devant lui. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, tu as abandonné le combat. Tu avais 5 jetons noirs posés devant toi.
À la fin.
Et tu les as, ouais, à la fin, et tu les as remis dans le tas.
Je crois qu'il jouait avec.
Non,
je
jouais avec. Tu joues avec. Non, ah, ok, d'accord.
Parce que il avait plus de jetons.
Parce que, attends, justement, il avait plus de jetons. Parce que moi, je regardais les 5 jetons noirs avec lesquels tu jouais. Non, petit coquin. Alors, petit coquin. Alors. Parce que moi, je les regardais en me disant, mais il va nous défenestrer à la fin. Non, mais... je jouais juste avec. Fais attention quand tu joues avec tes petits joujoux, là, parce que c'est dangereux, mon petit Vincent.
Alors c'est vrai qu'il y avait un côté comme ça où tout était tellement prévu que il y avait pas trop de surprises. N'empêche que quand on a commencé à voir un sniper embusqué là en haut de son balcon, on a tous commencé un peu à paniquer. Moi j'avais pas assez de points pour lui courir dessus parce que j'avais pas pris athlétisme.
Ouais, c'était chaud. Ouais, c'était chaud.
Mais attends, on était tous en vigilance ou en bagarre ou en blabla.
C'est que moi j'ai l'épée de Damoclès, c'était qu'il jouait avec 5 jetons dans les mains. J'étais persuadé que c'était des jetons de danger qu'il avait. Franchement, Vincent, je te jure. Et donc, moi, j'étais en mode, mais attends, tout le monde a tout cramé, et lui, il lui reste 5 jetons. Les 5 là, on va les sentir, quoi. En plus, t'avais des mecs qui étaient quand même postés autour. Je me suis dit, il va nous capturer, il va nous faire quelque chose.
Non, mais c'était.
Et quand tu as défaussé les jetons, j'ai fait, ah bon, c'est la fin du scénario, ok, il a accepté notre plan, il a trouvé.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que j'allais pas décider que ça foire juste pour le plaisir que ça foire. Vous aviez un plan qui se déroule sans accro, et là, du coup, ça s'est vraiment déroulé sans accro. Les quelques embûches que je vous ai mis sur le chemin, vous les avez résolues assez facilement quand même, quoi. Vous aviez été plutôt.
Parce qu'on était bon.
Ouais, mais vous aviez aussi été prévoyant, quoi. Et oui, puis, ouais. Puis voilà. Bon, je vois pas. C'est vrai que c'est anticlimatique, mais je vois pas l'intérêt de rajouter de la difficulté là où, bon, en l'occurrence.
Qu'est-ce que vous appelez anticlimatique,
c'est-à-dire? Non, c'est ce qu'en fait. Moi, j'ai des habitudes un peu ludistes aussi. C'est que je m'attendais à ce que on peine en tant que joueur au final, parce qu'en soi, la résolution, elle est logique pour l'histoire. D'un point de vue narratif, ça se finit comme ça devait se finir.
Ouais.
Mais moi, le fait qu'en tant que joueur, ça a été facile parce que j'avais déjà grosso modo en tête le moment.
Bien préparé.
Je savais combien de jetons j'avais. Je me disais, bon, de toute façon, je vois pas comment on peut. Longtemps à l'avance, je me suis dit, je vois pas comment ça peut être difficile, on peut être mis en difficulté.
D'accord. Alors, c'était la victoire éclatante, très éclatante, quoi.
Jérémy ?
Ouais, pareil, je m'attendais à un piège comme dans un film de braquage où ils ont prévu leur plan pendant une heure, le film parle de ça, et il y a quand même le petit truc qui fait et heureusement on trouve un moyen de s'en sortir. Là, il n'y avait pas ce petit moment qui aurait pu dire, allez, c'est le dernier combat. Ça s'est fait, bon, ça s'est bien fini, c'était quand même un vrai panache en termes d'histoire.
C'est un truc d'habitude de boss final, en fait. Ouais, ce qui dans ma tête tenait lieu de boss final, grosso modo, pour pas spoiler, en un claquement de doigts, il s'est retrouvé submergé par une foule.
En fait, c'est anticlimaxique. C'est ça.
Et puis sans dévoiler la fin, le noble qui s'est un peu levé à la fin, que t'as défoncé.
J'ai
comme ça.
Kiffé. Alors ça, j'ai kiffé. C'est-à-dire qu'en fait, il sort un argument qui est ultra recevable et qui nous défend. Enfin, moi, quand tu te lèves, Vincent, et que tu sors l'argument, tu dis oui, et les preuves. Je te jure, moi, tout le monde, enfin, je sais pas si vous, ça vous avez. Moi, j'ai eu un frisson, j'ai blanchi, quoi. J'ai dit, putain, mais il a raison, ce con. Et puis l'autre, il fait, non, mais en fait, paf, une calotte, et la violence résout tout. Mais il y a un côté, la violence.
J'ai reproduit une scène de One Piece, en fait. Hein. J'ai pas pris la tête.
Et c'était génial parce que ce type, tu sais, t'as l'impression que la raison s'élève, et puis t'as la brute à côté qui fait juste ponk, le coup de poing sur la tête, le mec s'effondre. Et puis, non, les gentils gagnent.
Mais ça, bon, j'avais quand même un plan de secours. Si jamais il n'avait pas été frappé, je comptais l'humilier et dépenser un jeton héroïsme.
Mais tu vois, dans tous les cas, ça revient au même. C'est-à-dire que ce type te sort un argument, une flèche, il décoche. Franchement, moi, j'étais frappé au cœur. Quand il dit ça, je suis là, merde, on n'avait pas du tout pensé à ça. Et au final, à l'aide d'un coup de poing, on résout l'action. Et ça, c'est héroïque. Ça, c'est héroïque pour moi, même si c'est bon. Dans la morale... Non, mais attends, mais si. Mais complètement. Combien de fois dans les films, il y a des scènes comme ça qui se résolvent, patatras. C'est presque un Deus... Enfin, c'est presque un coup de théâtre. C'est un coup de théâtre, ça, typiquement.
Patatex machina.
Bah oui, donc pour moi, le coup de théâtre, ça fait partie des bonnes
Deus
fictions.
Ex patata.
Et ça fonctionne. Et donc, non, j'ai trouvé ça vraiment... moi, probablement, d'ailleurs, ma scène préférée du... Finalement, à la fin, ma scène préférée du scénar. Ouais. Cette façon de...
Et pour moi, donc, sur la fin, c'était une espèce de scène d'action, mais verbale, en fait.
C'est-à-dire exactement.
Ça avait le rythme d'une scène d'action, exactement. En fait. C'est-à-dire que les actions s'enchaînaient assez vite, sauf que, en fait, ça se faisait par la parole, en fait.
Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas... Pardon, excuse-moi, Vincent.
Non, vas-y.
C'était quelque chose qu'on n'a pas assez dit, peut-être, sur le jeu aussi, parce qu'on en prend maintenant gentiment l'habitude avec ces jeux modernes. mais c'est que, comme dans Dogs, on peut arrêter une balle avec à la puissance de son éloquence. On peut, et ça, c'est quelque chose de... Dans les jeux de rôle traditionnels, il y avait toujours ces phases d'action où on est dans le combat, et puis il n'y a que ça qui marche. Et du coup, l'éloquence, le charisme et tout ça, à ce moment-là, sont un peu à mettre au placard. Je trouve que dans les jeux modernes, là maintenant, il y a vraiment, comme dans Shadow Renaissance d'ailleurs, où on pouvait, souviens-toi Vincent, arrêter un militaire qui nous charge dessus en faisant une belle mélodie parce qu'il se met à pleurer, parce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre l'art autochtone. Enfin, j'avais trouvé ça vraiment très très fort. Et là, je trouve qu'on retrouve cette dynamique-là. On peut vraiment dire que dans les jeux modernes, c'est quelque chose d'important et de fondamental dans le tradit moderne maintenant, de pouvoir arrêter une balle à l'aide de son éloquence. Et donc de mettre les compétences sociales de combat au même niveau. Finalement. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, puis ça permet à certains joueurs de gratter, genre, est-ce que je peux me servir d'astuce pour faire des pirouettes avec mon fouet?
Oui, voilà, mais quelque part, ça fait partie du ludisme, ça, pour moi. Le fait, mais si, mais bien sûr que
mais
si.
Oui, je sais.
Le fait de bien utiliser le trait, de dire, ben voilà, de d'essayer d'aller chercher la compétence.
Après, t'as essayé, quoi.
Tu allais loin, parfois. Hein, c'est... Oui, mais résolution, je comprends pas bien le mot, ça doit bien pouvoir me servir à fouetter des gens.
En fait, parce que je l'entendais comme résolution au sens de détermination.
Oui, bah, c'est ça.
Et oui, c'est
disais,
ça.
Bah oui, bah, je me disais tenir debout. Alors qu'il y a
fouetter des gens, ça réclame pas une grande volonté. Hein.
Je suis quand même. Enfin, je veux dire, je suis une femme toute seule à ce moment-là et je tiens tête à 17 mercenaires qui arrivent par une porte enflammée. J'estime qu'il y a un peu de résolution là.
Une héroïne avec un fouet.
Une héroïne de cap et d'épée avec un fouet.
D'accord.
Qui a le pouvoir de voir la destinée. Je t'ai pas trop senti en difficulté. Moi.
Ok. Mais voilà, bon, d'accord, ok, j'ai un peu gratté, c'est vrai, bon, voilà, j'avoue.
C'est le jeu, hein, si t'arrives à le justifier, toi, t'as une phase de négoce avec le MJ, hein, pour...
Oui, ça joue aussi.
C'est vrai que pour résumer, ça fait un peu la politique de guerre américaine, quoi, le début, on a tapé, on a fini sur de la discussion, quoi.
Ouais, c'est... Alors... C'est un peu, c'est ça, c'est-à-dire que le jeu a encouragé parfois certaines prises morales un peu discutables. Mais ça provoque des situations intéressantes. Et
t'as
et
pas le droit d'être un méchant dans le jeu. Je t'ai vu plusieurs fois aller vers là, je me suis pas permis de te le rappeler ce que ça aurait été du méta-jeu. Mais c'était ce qui nous a été dit, on est des héros dans un film de cap et d'épée.
Ah, je comprends.
T'as pas le droit d'être chaotique bon, t'as juste le droit d'être bon.
Mais je comprends, mais il y a des moments où tu prenais des décisions un peu, j'avais envie de te...
Pragmatique, pas mauvaise.
Ah, tous les deux là quand même.
Ça chauffait un peu entre nous Dorian. Sur les choix.
Le couple royal.
Non, parce que moi, c'était. La violence était acceptable, mais pas la veulerie.
La violence avec l'argent des autres, parce que c'est l'argent de mon père que tu dépensais quand même. On va le rappeler. Bon, excuse-moi, je voulais pas.
C'est un mariage.
En scène de ménage.
Encore une fois, c'était un mariage arrangé, c'était normal que je profite de l'argent de ton papa.
Ok, bon.
C'était un mariage de raison. Moi, je t'ai marié pour l'argent de ton papa et tes pouvoirs magiques.
Ah, moi, j'ai, à titre personnel, sur ce jeu, je trouve aussi que là, on a vraiment une prise en compte de ce que c'est que le média jeu de rôle. Moi, alors ma vision à moi, tu le sais, Vincent, c'est celle du Maelstrom. Là, pour le coup, on est à fond dedans. Pour moi, c'est un jeu qui illustre très très bien le Maelstrom dans la mesure où le maître de jeu est juste là pour poser des situations problèmes et donc inviter les joueurs à se poser la question de comment ils résolvent ces situations problèmes et à faire des propositions. Enfin, on pourrait presque quasiment appliquer le vocabulaire du Maelstrom à 7e R. Tu vas dire, bah, les joueurs sont là pour faire des propositions, certaines sont obligées d'être validées si des pions sont dépensés pour le faire. Tu vois, on pourrait employer tout le vocabulaire. Et donc, en cela, moi, franchement, ce jeu, je pourrais m'en servir aussi pour montrer dans ça. C'est pas si c'est un point positif ou pas, mais en tout cas, moi, ça fait que je m'y sens comme chez moi. Voilà, une petite question que je voulais te poser en ouverture de ce podcast, sauf si vous avez encore des réflexions à faire sur le design et l'univers.
Mais plus du tout sur l'ouverture du podcast, là.
C'est...
Ouais.
Non, mais enfin, je veux dire, pour la fin, c'est pourquoi ce jeu s'appelle 7e mer. On en a parlé un peu, mais je voudrais savoir pourquoi il s'appelle 7e mer, parce qu'on n'a pas vu de mer.
Non, alors déjà, c'est pas contrairement à ce que le titre peut sous-entendre, c'est pas un jeu de pirates, en fait, 7e mer. C'est vraiment un jeu de cap et d'épée. Alors, on peut jouer des pirates, mais on peut jouer des courtisans, des aventuriers. Enfin, ça se passe pas forcément sur l'eau, quoi. Ça s'appelle 7e mer, donc c'est une légende, c'est-à-dire que le continent sur lequel ça se passe, Théa, est entouré par 6 mers, et il existerait une 7e mer mythique, tu vois, où les marins parlent, qui mènerait dans des endroits merveilleux, qui seraient peuplés de créatures extraordinaires, dans lesquelles on pourrait trouver les plus grands trésors. Voilà. Donc ça fait partie des légendes maritimes, en fait.
Mais moi, mes souvenirs de la première édition, en tout cas tel qu'on me l'avait fait jouer, c'était beaucoup plus Pirates des Caraïbes.
Non, c'était pareil la première édition en fait. Tu pouvais avoir des aventures en mer, tu pouvais également. C'est vraiment que du cap et d'épée. Mais la première édition était pareil. Mais il y avait vraiment cette confusion, quoi. Et pour la première édition, d'ailleurs, si tu reprenais les scénarios qui étaient publiés, il n'y en avait pas des masses qui se passaient sur mer, en fait.
Quelqu'un a évoqué aussi le nom de Sinbad et les sept mers. Je ne sais plus qui est-ce qui a parlé de ça, c'est toi.
C'est un vieux film.
D'accord. Ok. Et donc, ce serait une référence à ça?
C'est
ou non,
possible. Ouais. Ouais. Bah, il se peut qu'il aime bien le genre de cap et d'épée. Donc,
d'accord, ok. Très bien, très bien. Eh ben merci. T'avais une dernière question.
Juste une petite conclusion.
N'hésitez pas.
Moi, du coup, c'est la première fois vraiment que je joue à un jeu de John Wick, et en plus récent, enfin ou au moins relativement récent. Je comprends pourquoi il a la réputation qu'on lui donne. C'est vraiment pas mal.
C'est-à-dire, quelle est sa réputation?
Il a la réputation d'être un bon game designer. D'être quelqu'un qui sait à peu près ce qu'il fait quand il écrit un jeu, qui met pas ses conseils au hasard, etc.
Très au fait de la théorie, ça se sent dans le design du jeu.
Et puis puis en plus c'est quelqu'un qui a eu une vie pas facile. Il paraît qu'ils ont fait un biopic.
Attends, c'est quoi ce
Ils ont tué son chien.
C'est son chien, ouais.
Ça fait
deux films. C'est un film avec Keanu Reeves.
Ok, d'accord. Une référence que je ne comprends pas.
Où c'est un tueur à gage qui se fait tuer son chien, du coup il tue toutes les mafias russes.
John Wick.
Ouais. Okay.
Donc
En parlant le mot réputation, je suis en train de dire sur la fiche du personnage, il y a le mot réputation stoïque, c'est juste pour. Stoïque pour mon personnage, mais pour les autres personnages, c'est autre chose. Ça sert à quoi la réputation?
Moi, c'est dans mes avantages aussi. Ma réputation se retrouve dans mes avantages.
Après, ça te donne. C'est un guide de roleplay, et si jamais tu fais tu prends des risques sociaux où ta réputation peut t'aider, ça rajoute ça peut te rajouter un dé à ton groupement, en fait.
Ok,
voilà. Si tu arrives à jouer avec.
En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré mon personnage. J'ai bien aimé le fait que le scénario aussi soit pas, enfin le scénario, le canevas ou les situations problèmes proposées soient pas trop longues. Après, en fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très long. Quand on a fait la première scène de combat, je me suis dit, ok. Donc, en fait, pour nous faire vivre des choses intéressantes, ce jeu va avoir besoin de 8 ou 10 scènes comme ça. Je me suis dit, on va vivre du 8. Et en fait, au bout de 3 scènes, on a déjà une fiction qui est très riche, bien ficelée, qui est déjà en elle-même, qui fait un bon épisode, tu vois, d'ouverture. Donc, au final, c'est un jeu qui n'est pas si long que ça, à mettre en place, ni à jouer.
Là dans la partie qu'on a fait,
la
toute première scène, elle a été longue. Beaucoup plus, je pense que c'est la fois la plus longue de toutes les parties que j'ai fait.
Ouais,
mais c'est parce que vous avez fait 3 groupes, quoi. Donc,
Et
dès que vous vous êtes réunis, ça a été
hyper vite.
Assez vite,
ouais. D'accord, ok. Donc au final, ce scénario d'introduction, tu chronométrerais en combien de temps? 1h30, 2h?
Peut-être un petit peu plus,
un
quoi.
Petit peu plus quand même.
Mais en 4 heures, tu peux le faire, quoi. Ouais. Avec présentation de l'univers et du système.
C'est assez impressionnant. Merci Vincent de nous avoir présenté 7ème mer. C'était très enrichissant. Merci à tous, merci à Jérémy, merci à Valentin, merci à Dorian. À tout bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout jouez bien. À bientôt.
Bisous.
Salut.